1 Corinthiens 14, 34. Comme cela a lieu dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car elles n'ont pas de mission de parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Donc voilà, dit Saint Paul vis-à-vis des assemblées. Il ne parle pas, bien sûr, de la vie quotidienne de tous les jours. Il parle uniquement ici du culte, donc de l'assemblée liturgique, donc la messe. Il parle de la messe et pas autre chose. Et ensuite, en Timothée 2:11 suivante, il parle de la prière publique, donc la messe, encore le culte, et le bon ordre pendant la messe, pendant les assemblées. Et il parle d'abord à propos des hommes, donc en Timothée 2:1-7, il parle des hommes, et ensuite, il parle du tenue que doivent avoir les hommes, 1-8, et les femmes, 9-15. Donc il parle d'abord des hommes, ensuite des femmes. Donc qu'est-ce qu'il dit à propos des hommes? Bon, les filles, bon, toujours intéressant. Qu'est-ce que Saint Paul dit à propos des hommes? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont constitués en dignité. Donc les hommes, c'est-à-dire les baptisés, pour les rois, ceux qui ont le gouvernement ou l'autorité publique, et ceux qui sont constitués en dignité, c'est-à-dire les prêtres. Et il dit, afin que nous passions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus fait homme. Donc, il parle aux hommes et il parle du médiateur qui est notre Seigneur, qui est un homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là un fait attesté en son temps et c'est pour en témoigner que j'ai été établi prédicateur et apôtre et prêtre. Donc, Saint Paul parle des hommes. Il parle, il dit qu'ils doivent être pieux, ils doivent prier, rendre action de grâce. Il parle aux baptisés, aux hommes baptisés, aux autorités civiles et aux prêtres. Et ensuite, il parle à propos du sacerdoce. Donc, il parle à propos de ce que c'est le prêtre. Le prêtre, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Comme Jésus s'est étendu les bras sur la croix, le prêtre est entre Dieu et les hommes. Et il se donne lui-même en rançon pour tous, comme Jésus a fait. Donc maintenant, il va parler des femmes. Donc je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant au ciel des mains pures, sans colère ni agitation de pensée. Donc de même, les femmes, en vêtements décents, se parant avec pudeur et simplicité, non de tresses, de bijoux, de perles ou d'habits somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et maintenant, il faut bien savoir que c'est la parole de Dieu. Donc, il faut toujours le recevoir avec soumission. Mais ces choses sont complètes. Les choses que Saint Paul va dire maintenant sont rejetées par les catholiques modernes. On le voit nulle part dans les épîtres qui sont lus aux messes. Dans le nouveau catéchisme, on ne parle pas. Dans les sermons, on n'entend jamais Saint Paul. On dit tout simplement, Saint Paul était un petit vieillot qui avait des idées un peu bornées sur les femmes. Il n'aimait pas les femmes, ça c'est compréhensible, parce qu'il vivait tout seul, c'était un célibataire, et puis il n'aimait pas trop les femmes. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On dit dans les séminaires, par exemple, que Saint Paul était conditionné par son temps. Donc il adoptait tout simplement la façon de traiter les femmes de l'époque. Donc notre époque est différente, donc il faut l'émancipation de la femme. Est-ce vrai, est-ce faux? Bon, vous allez voir. Il parle en principe, donc il parle pour les femmes de tous les temps. Et il parle à propos de l'Église encore. Il ne parle pas à propos de l'activité quotidienne ou dans le foyer, ça c'est autre chose. Mais il parle uniquement de l'Église. Après avoir dit que Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu, qui lui-même est prêtre, donc que Saint Paul lui-même est prêtre, il parle maintenant des femmes baptisées. Donc que la femme écoute l'instruction en silence. Donc l'instruction de qui? Le prêtre. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit se tenir dans le silence, dans l'Église. pendant le dîner, ce serait plate si on ne pourrait pas parler. Car Adam a été formé le premier, ça c'est important. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, ayant été séduite, tomba dans la transgression. Néanmoins, la femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sainteté unie à la modestie. Donc, il dit des choses très intéressantes. Il dit que dans l'Église, la femme a une rôle passive, c'est-à-dire elle reçoit du prêtre. Mais elle n'a pas une autorité active d'enseigner. Ça, c'est le premier point qui a été toujours observé dans l'Église catholique. C'est ça. Et puis, il dit aussi que la femme ne doit pas avoir l'autorité sur l'homme. Et c'est une question très importante qu'on va voir en détail ce soir, dans le foyer, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on prêche l'égalité absolue, qu'il n'y a pas de rôle, c'est arbitraire, que la femme va travailler, l'homme change les couches, peu importe, ça n'a pas de, il n'y a pas de rôle, tout est égal. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, la femme n'a pas d'autorité sur l'homme. Il ne dit pas, à cette époque-ci, la femme n'a pas d'autorité sur l'homme, mais en 1993, elle l'aura. Non, il part en principe. Elle doit se tenir dans le silence, c'est-à-dire dans l'Église. Donc, elle doit recevoir l'enseignement comme une éponge. Donc, Adam a été formé le premier. Donc, ça, c'est très important, point de vue théologique. On va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est Adam qui a été fait, qui a été créé premier, et il a été créé tête. Et la femme a été tirée de l'homme. En anglais, woman veut dire de l'homme. Donc, Adam a été créé, et ensuite Ève. C'est important parce qu'on pourrait se demander pourquoi Dieu n'a pas créé les deux en même temps. Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi Adam et ensuite la femme? Ou pourquoi pas Ève et ensuite Adam? Et ce sont des questions qui sont très, très importantes, qui semblent un peu drôles peut-être, mais ce sont des questions importantes. Et ce sont des choses qu'on n'entend nulle part aujourd'hui, parce qu'il y a tout de suite un tollé crucifige, c'est-à-dire crucifiez-le, si on parle de ces choses-là. J'étais à l'université une fois, et puis j'ai parlé avec quelques filles du rôle de la femme, je ne sais pas pourquoi on parlait de cela. Puis tout de suite, il y en a un qui a pris son cartable et allait me taper sur la tête. Donc vous voyez, ce sont des questions assez disputées. C'est-à-dire, les gens en disputent, mais la doctrine est claire. La doctrine de l'Église est très, très claire. C'est parce qu'on ne veut pas l'enseigner, parce que ça gêne. Les libertés, c'est ça. Voilà, donc on va passer maintenant au noyau de notre conférence. Ça va être... on va parler d'abord de la philosophie, parce que pour bien comprendre pourquoi l'homme est créé d'abord, la femme après, pourquoi le prêtre a une autorité active, pourquoi la femme doit se taire dans l'église, c'est important de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que Dieu l'a dit, mais demain il pourrait dire, non, c'est la femme qui sera prêtre et puis l'homme il va se tenir dans son petit coin et il va rien dire. Est-ce que ce sont des choses qui sont changeables ou est-ce que ce sont des choses qui sont de principe et c'est Dieu qui a fait la nature comme ça ou non? Donc on va voir cela. Et ensuite la tradition de l'Église, la théologie de l'Église, le nouveau catéchisme catholique parce qu'il y a des choses très intéressantes. Ensuite quelques encycliques des papes et puis encore Saint Paul. Donc dans un livre qui est apparu en 1985, il y a... Iota Unum par monsieur, attendez, par Romano Amerio. C'est pas un catholique traditionnel, mais c'est un Italien qui habite en Suisse. Et c'est un homme qui n'a rien à voir avec la tradition. Mais c'est un homme très instruit, très docte, qui a fait un livre qui s'appelle Iota Unum, étude des variations de l'Église catholique au XXe siècle. Tout ce qu'il a fait, c'est relever les contradictions. On a fait comme ça en 1930, aujourd'hui on fait différemment. Pourquoi? Tout le livre c'est ça. Il traite tous les sujets de l'Église, de doctrine, les femmes, les sports, le physique, la théologie, tous les points en détail. Et puis, qu'est-ce qu'il dit sur la femme? La tradition égalitaire de l'Église, subordination et supériorité de la femme. Donc d'abord, il part du féminisme. Donc, il dit qu'il y avait une tendance à l'époque de mettre à l'égalité la femme avec l'homme. Et cela, par exemple, chez les hérétiques au début de l'Église, ils ont fait que la femme s'est jetée même dans la Sainte Trinité en disant que, par exemple, l'Esprit Saint était une femme. C'était une des thèses hérétiques au VIe siècle, que la troisième personne de la Sainte Trinité est une femme. Donc vous voyez, comme on a essayé de faire l'égalité de plusieurs façons théologiques et philosophiques, donc chez le Créateur. Aujourd'hui, on parle très souvent de notre mère, père, qui est aussi, ou notre mère tout court, dans des messes qui sont priées dans les paroisses. On parle de Dieu comme principe maternel, comme un Dieu féminin, par exemple. Donc ce sont des questions très, très importantes qui vont très, très loin aujourd'hui. Tout féminisme s'oppose à l'ordre naturel. Donc ce soir, on va parler de l'ordre naturel. Qu'est-ce que c'est l'ordre naturel? Donc tout féminisme suppose, donc ce vouloir de mettre à l'égalité la femme avec l'homme, s'oppose à l'ordre naturel qui différencie les deux genres, non unilatéralement, c'est-à-dire chacun dans son coin, mais réciproquement, c'est-à-dire il y a une complémentarité, donc il y a une union entre les deux. Il ne faut pas considérer l'homme sans la femme sans l'homme, parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Il n'y aura pas une planète avec que des femmes ou une planète avec que les hommes, ça n'a pas de bon sens. Ça va ensemble. Donc, mais il y a une subordination l'un à l'autre. Donc ce n'est pas une égalité. Il y a une distinction entre les deux. Il y a unité parce que la femme est faite pour l'homme, l'homme est fait pour la femme. Mais il y a une subordination. Il n'y a pas une égalité parfaite. Donc cette différence harmonisée n'est pas un effet purement social. C'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Par exemple, dans toutes les écoles, aujourd'hui au Québec, on enseigne aux jeunes filles, par exemple au cégep et dans les collèges, qu'il ne faut pas être une carotte, bon en anglais, you shouldn't be a carrot at the kitchen sink. C'est ce qu'on dit aux femmes pour se ridiculiser des femmes d'autrefois qui faisaient la vaisselle. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Il ne faut pas être une carotte ou quelqu'un qui est nul ou, comment dire, sans cerveau. Une carotte, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau, qui est toujours en train de faire la vaisselle. Donc c'est l'image qu'on a donnée d'une femme qui veut élever ses enfants et rester à la maison. Et puis être le principe maternel dans la famille, élever les enfants, les instruire. Est-ce qu'il faut être un imbécile pour éduquer les enfants? Non, il faut être instruit et très intelligent. Donc il y a toute une propagande qui dit que la distinction et la subordination de la femme à l'homme, c'est un effet purement social qui peut changer. Demain, ça pourrait être que les femmes sont supérieures aux hommes, puis ce sont les hommes qui sont soumis aux femmes. Et c'est ce que veulent les féministes extrêmes, par exemple aux universités. Ils ont des chaires de philosophie féministe, des chaires de théologie féministe. Et ces femmes-là, ils exigent non pas l'égalité, mais la supériorité et qu'on écrase les hommes. Donc vous voyez, ce sont des questions très importantes et ces philosophies-là sont partout dans nos écoles. Partout, partout. Donc non, c'est une différence inhérente à la nature humaine. Donc le fait que la femme est subordonnée à l'homme, donc il y a une subordination l'un à l'autre, ce n'est pas une différence purement sociale, mais c'est une différence inhérente à la nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire inhérente? C'est-à-dire c'est dans la nature, c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est pas quelque chose qui est sujet au changement, aux vicissitudes des époques, mais c'est quelque chose qui est dans la nature. Une grenouille, c'est une grenouille, une banane, c'est une banane. C'est naturel. Il n'y aura jamais de bananes qui sont des grenouilles, jamais de grenouilles qui sont des bananes. C'est naturel. Ce n'est pas un effet purement social. Je ne peux pas dire, demain, la société dit que toutes les bananes, ce sont des grenouilles. Mais non, ça ne se conçoit pas. Donc, il y a des choses qui sont purement sociales, c'est certain. Par exemple, la coiffure. Que votre coiffure soit haute même, ou comme ça, ou détresse, ou c'est purement social. Donc, selon les années, les époques, les modes, ça change. Bon, d'accord, c'est purement social, c'est accidentel. Ce n'est pas inhérent à la nature. Ce n'est pas à l'intérieur de la nature. Mais est-ce que les différences entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, donc dans l'ordre naturel, comme on est créé par Dieu, ou est-ce que c'est purement social? Donc l'aspect métaphysique ou comment dire, philosophique de la dualité sexuelle, donc, parce qu'il y a deux sexes qui sont ensemble, donc une dualité, qui est celle de deux êtres coordonnés pour l'unité. Donc l'homme et la femme, vous rappelez dans la Genèse, c'est que l'homme quitte sa famille et qu'il adhère à une femme et puis que les deux deviennent une seule chair. Donc l'homme est fait pour la femme est faite pour l'homme. Donc ils sont coordonnés ensemble, ordonnés à l'unité. Il me suffira de rappeler que chacun des deux sexes étant coordonné à l'autre, la subordination, quelle qu'elle soit, que l'on voit indéniablement sur le plan naturel dans l'acte conjugal, par exemple, n'empêche pas cette sujection de la femme à son mari et sujection au Seigneur. Donc, c'est une sujection naturelle. Donc, même si on n'a pas le bon Dieu, même si on n'a pas la grâce, la femme est soumise à l'homme. Et vous voyez dans les sociétés, par exemple, qui ne sont pas catholiques, les femmes sont soumises à l'homme. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la grâce, parce qu'ils n'ont pas la religion catholique pour éclairer cette harmonie, cette unité entre l'homme et la femme dans la grâce. Parce que ce n'est pas un esclavage d'être soumis à l'homme. Non, la femme est le complément de l'homme. Mais pour savoir ça, il faut savoir la révélation, il faut connaître la révélation. Et les païens, ils ont gardé la sujection naturelle de la femme à l'homme en le défigurant. Donc ils ont rendu cette sujection qui était la dignité et l'honneur de la femme. Ce n'est pas pour amoindrir la femme qu'elle est soumise à l'homme, non. Mais les musulmans, les bouddhistes, toutes les autres sectes de religion qui n'ont pas la religion, ils ont rendu cette sujection naturelle un esclavage. Voilà, les musulmans, par exemple, ils mettent une housse sur la femme, on met une housse sur la télévision, on met une housse sur les meubles, qu'on veut qu'ils ne soient pas touchés ou souillés, on met une housse sur la femme, parce que c'est une chose, on a un chameau, un télé, une femme. Voilà, c'est une défiguration. Est-ce que la femme est une chose? Bien sûr que non. Mais il y a 1 billion de personnes sur notre planète qui sont convaincues que la femme, c'est une chose. Mais ce n'est pas vrai. Donc on va voir ce soir que c'est vrai qu'il y a une sujection naturelle de la femme à l'homme, mais quelle est la nature de cette sujection? C'est un état surnaturel, mais aussi naturel. On va voir les deux. L'un complémente l'autre. La foi va jamais contre la raison. En effet, non seulement elle tire son origine de la subordination de la femme à l'homme, tire son origine à la législation divine donnée au début de l'humanité. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la loi divine positive. Donc, c'est la révélation qu'a fait Dieu à l'homme. Mais est-ce que c'est seulement parce que Dieu l'a dit? Est-ce qu'il a dit la femme sera soumise à l'homme? Mais ce n'est pas dans la nature. Ce n'est pas quelque chose que Dieu peut changer demain. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans notre nature et qui ne peut pas être autrement? On va voir. Donc, elle tire son origine de la législation divine donnée au début de l'humanité. Mais non seulement cela, elle est fondée aussi sur la différence de nature des deux sexes, l'un portant la marque des vertus de gouvernement, donc celui qui gouverne est actif, la bienvenue à l'école, il a un pouvoir actif, par exemple, sur nous, et puis est poussé d'instinct à la procréation, donc à la procréation, l'homme est poussé à la procréation, ou porté à la procréation, l'autre, donc la femme, portant la marque de la souplesse à suivre une direction et de l'attachement à son mari. Donc ce sont des choses qui sont dans la nature. L'homme est plutôt porté au gouvernement, à l'autorité active. Si on a un cerveau, on voit ça. C'est que l'homme est plutôt porté au gouvernement des choses. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des femmes qui ne peuvent pas bien gouverner, ce n'est pas ça. Mais les hommes, en général, sont plus portés vers l'exercice de l'autorité active. Et les femmes ont plus de souplesse pour suivre de façon émotive et psychologique. Les femmes sont faites pour s'unir à la volonté de son mari. Donc, dans une classe, par exemple, il y a un professeur, il y a des étudiants. Le professeur a une autorité active. Les enfants ont le rôle d'obéir, de suivre, de se soumettre. Il y aurait, si on ne pourrait pas imaginer une classe où le maître serait soumis à la dictature des enfants. Ça s'appelle l'anarchie. Voilà. Il n'y a aucune classe, même parmi les marxistes, les athées, ceux qui rejettent Dieu, rejettent tout ordre inhérent ou naturel, et disent que tout est purement social. Ils mèneraient jamais leur classe avec le maître devant les enfants et les enfants en train de donner des cours. Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que celui qui a la connaissance, il a une supériorité, il a une autorité active, il doit transmettre cette connaissance supérieure. Celui qui n'a pas la connaissance en lui, il est inférieur et il doit se soumettre pour recevoir cet enseignement transmis. C'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Et on peut transposer ce scénario à l'homme et la femme. Donc l'homme a une autorité naturelle qui vient de Dieu, de par la nature, parce que Dieu a voulu qu'il la crée ainsi, et la femme doit recevoir de son mari. Voilà. Mais on va voir ça plus en détail, parce que c'est très facile de le dire, mais il faut donner des preuves philosophiques et théologiques. Bien sûr, les preuves théologiques sont plus fortes que les preuves philosophiques. Donc, quand Saint Paul dit « les femmes soient soumises à leur mari », c'est plus fort qu'un argument purement philosophique, où je montre la convenance de la chose, que les femmes doivent être soumises à l'autorité de l'homme. Donc gardez ça en tête, la théologie est toujours plus forte que la philosophie, mais les deux vont ensemble. Donc la soumission de la femme à l'homme est sans servilité, donc ce n'est pas servile. Il y a bien des hommes dans le temps qui matraquaient leurs femmes et les abusaient de leur soumission. Ça s'appelle la servilité. Et c'est ce genre de caricature de l'autorité de l'homme qui pullule dans notre société aujourd'hui. Quand on veut, par exemple, se moquer des institutions, on ne vous donne pas les exemples, par exemple, des familles qui avaient 25 enfants où la femme aimait être au foyer, c'était un travail à plein temps. Vous ne voulez pas quitter la famille quand vous avez 25 enfants, c'est inimaginable, naturellement. Et puis, où elle aimait sa famille, être le cœur de la famille, et l'homme, il dirige la famille. On ne donne jamais des exemples comme ça. On part toujours des clochards, des messieurs qui abusaient de leurs femmes, qui les traitaient comme des esclaves, qui les battaient s'ils versaient le café à côté de... Vous voyez, vous entendez des exemples toujours négatifs. Mais il y avait bien des exemples positifs, et on n'entend jamais de ça. Mais on met toujours l'accent sur des quelques pommes pourries dans le panier afin de rejeter toutes les pommes. Donc c'est important de dire que saint Thomas d'Aquin, par exemple, il disait... en parlant de la Genèse, donc du premier livre de la Bible, il disait que c'est écrit dans la Bible que la femme a été tirée d'un côte de l'homme. Il commente cela. Donc il dit c'est un fait. Donc, voilà, c'est pas la femme qui était créée et l'homme qui était créé d'un côte de la femme. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi Dieu a fait ainsi? Le bon Dieu fait pas les choses pour rien, mais il y a une raison toujours. Donc pourquoi? Il disait: la femme n'était pas tirée d'un os de la tête de l'homme, parce qu'on aurait pris un os d'autre part qu'un côte. On a tout plein d'os partout, il n'y a qu'à avoir un squelette. On peut faire un choix de l'orteil, de je sais pas, du nez. Bon, pourquoi un côte? Et puis, c'est que si on prenait par exemple un os de la tête, la femme s'enorgueillissait peut-être. Donc on se dirait l'égal de l'homme, ou même le supérieur de l'homme. Et puis, si le bon Dieu aurait pris un os du pied de l'homme, la femme pourrait peut-être se sentirait comme un esclave, ou en dessous du pied de l'homme, donc comme un esclave. Mais non, Dieu, dans sa sagesse, a tiré la femme d'un côte de l'homme, parce qu'elle n'est ni le supérieur de l'homme, ni l'esclave de l'homme, mais le complément de l'homme. Donc le supplément, l'unité dans un équilibre harmonieux, une subordination complémentaire dans la charité. Donc c'est très très beau. C'est pas quelque chose de... Mais ce sont des ennemis de l'Église, ce sont des mauvais catholiques qui ont défiguré cette beauté de la doctrine catholique. C'est parce qu'ils ne le vivaient pas. Quelqu'un qui traite sa femme en esclave, est-ce qu'il met en pratique, est-ce qu'il vit la doctrine de l'Église? Pas en toute. Non, pas du tout. Et les féministes et les catholiques modernes, quand ils disent que la femme est l'égale ou le supérieur de l'homme, est-ce qu'ils mettent en pratique la beauté de ce passage dans l'Écriture sainte? Non, ils le mettent à part. Ils n'en parlent pas. C'est ce qu'on va voir là-dedans, dans le catéchisme, du nouveau catéchisme de l'Église catholique. Ils n'en parlent pas, ils se taisent, afin de donner une autre version de la Bible. Il n'existe pas. Donc le chef de tout homme, c'est le Christ. Que le chef de la femme, c'est l'homme. Et que le chef du Christ, c'est Dieu. Si vous avez compris ça ce soir, une chose, vous avez tout compris. C'est que le chef de tout homme, c'est le Christ. Que le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Donc vous voyez l'hiérarchie. Tout est hiérarchisé dans notre monde. Il y a les lois. Par exemple, la loi de la tonalité. Si vous jouez une pièce et puis vous frappez le piano à un mauvais endroit, ça va faire comme ça, vous allez voir, est-ce que c'est juste ou pas? Parce qu'il y a des lois. Ceci, c'est un fa. Un sol, c'est pas un fa. Un ré, c'est pas un fa. Un fa, c'est un fa. Voilà. Il y a des lois. Par exemple, si vous vous mettez dans un four et vous crinquez à 500 degrés Fahrenheit, et puis vous attendez que vous n'allez pas vous chauffer un peu, il y a des lois. Et puis au-dessus d'une certaine température, l'homme se dissout complètement. Et s'il est en dessous d'une certaine température, il crève de froid, il meurt. Il y a des lois. Tout est hiérarchisé. Il y en a qui sont plus tolérants au froid. Il y en a qui sont moins. Il y en a qui voient mieux, il y en a qui voient moins. C'est selon la loi de la nature, les lois que le bon Dieu a mis dans la nature. Et dans le Dieu, le Christ, l'homme, la femme, c'est une hiérarchie, c'est dans l'ordre naturel des choses. Et si, par exemple, on pourrait bien distribuer ces photocopies-là, afin que vous compreniez ce point, vous pouvez les garder. Donc, en nier l'existence et encore de cette hiérarchie est encore une fois l'effet d'une abstraction vicieuse et fallacieuse qui, après avoir dépouillé les êtres de leurs notes spécifiques et individualisantes, se trouve en présence d'une essence générique et traite celle-ci comme un fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, si on nie l'existence des lois d'ordre naturel, donc il y a des lois dans la nature, c'est tout ce qu'il y a, il faut peut-être partager à deux. Si on nie ça, on tombe tout de suite dans des erreurs très très graves, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc l'homme est le principe actif et la femme le principe passif, naturellement. Et puis aussi, et on va discuter de ça plus loin, l'assujettissement de la femme à son mari reçoit pour modèle à suivre l'assujettissement de l'Église au Christ. Donc c'est saint Paul encore qui dit, il donne l'exemple du Christ et de l'Église, que la femme soit soumise au Christ comme l'Église est soumise au Christ. C'est que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise au Christ. De même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Bien, on va parler maintenant un peu de la philosophie, donc des raisons d'ordre philosophique pour un peu vous donner des raisons concrètes et profondes pourquoi les femmes sont soumises au mari, par exemple, ou pourquoi les femmes ne peuvent pas devenir des prêtres. Donc depuis la Révolution française, on entend le cri « liberté, fraternité, égalité ». Et autrefois, ces concepts étaient catholiques. Donc il y a la liberté des enfants de Dieu, par exemple. Ceux qui sont en état de grâce sont parfaitement libres parce qu'ils font toujours le bien. Nous sommes libres de faire le bien. Fraternité, ceux qui ont l'état de grâce sont unis dans une fraternité, une union profonde qui s'appelle la communion des saints. Voilà la fraternité des catholiques. Et égalité, donc chacun, homme ou femme, a la même essence, on a la même humanité. Donc on a le même âme, disons. Et puis cette âme, c'est-à-dire dans le sens que l'âme est faite pour le salut. Il y a des différences dans l'âme, on va voir ça. mais l'âme humaine, il n'y en a pas d'autre, l'âme d'une femme et l'âme d'un homme, c'est une âme humaine, puis cette âme est faite pour le salut. Donc voilà l'égalité catholique. Mais en toute autre chose, il y a une inégalité. Par exemple, une des facultés les plus hautes de l'âme, c'est l'intelligence. Mais vous n'allez pas demander à un enfant de 3 ans de faire la conférence que je suis en train de faire maintenant, parce que ce serait d'une valeur inégale. Donc il y a des inégalités, les professeurs qui sont plus intelligents, plus instruits que leurs étudiants. Il y a ceux qui sont en santé, il y en a ceux qui sont handicapés, il y en a ceux qui sont vieux, il y en a d'autres qui sont jeunes. Il y a des inégalités partout, dans l'ordre créé de Dieu. Donc, établir en principe général, liberté, sans référence ni au bien ni au mal, mais liberté de faire ce qu'on veut, ça ne veut rien dire. C'est une licence, c'est un libertinage. Fraternité, sans la grâce, sans la vérité, c'est une fausse union. C'est fondé en quoi? Pour être frère, il faut être, par exemple, frère en sang, du même lit. Mais si on n'est pas du même lit, on ne peut pas dire qu'on est frère. Donc, qu'est-ce qui fait que tous les hommes sont frères? Ils ont une humanité, c'est vrai, mais il y a une fraternité surnaturelle, et c'est ça qui fait le bonheur des hommes, et la vraie union des hommes, c'est l'union au Christ. Et les francs-maçons, bien sûr, ils parlent d'une fraternité de droit de l'homme, par exemple, une fraternité de tous les hommes, sans référence à la loi de Dieu. Égalité, que tous les hommes sont égaux. Par exemple, tout le monde doit aller à l'université, même s'ils sont bébêtes, et même s'il faut descendre le niveau des cours à un niveau 9e secondaire ou je ne sais pas quoi. Tout le monde a le droit, l'égalité des chances, on entend ça partout dans l'éducation aujourd'hui. Tout le monde doit avoir la même opportunité d'aller à l'université. Tout le monde, en effet, doit aller à l'université. Tout le monde doit avoir 100% et un A dans tous les examens, tous ses travaux. Voilà la philosophie à l'université aujourd'hui. C'est incroyable, mais c'est ça. Une égalité parfaite. Sans, ils disent que toutes les différences d'intelligence, ce sont des différences d'ordre purement social. C'est parce qu'il n'était pas choyé à Sainte-Foy que le petit enfant a été élevé, par exemple, à Saint-Roch et puis n'a pas eu les mêmes occasions, par exemple, qu'un riche. Donc, c'est parce qu'il est pauvre qu'il n'est pas intelligent. C'est pas parce qu'il est bébête naturellement, mais parce qu'il n'a pas été choyé comme les riches, il n'a pas eu toutes les occasions. Donc c'est purement social, les inégalités sont sociaux, et puis éventuellement il y aura une égalité parfaite quand on a aboli la pauvreté, le racisme, etc. Donc tous les hommes, selon ces gens-là, fraternité universelle sans vérité qui la fonde, tous les hommes sont égaux intellectuellement et individuellement. Donc, l'égalité des hommes et des femmes devant Dieu et dans la société est un acquis aujourd'hui. Donc, on vous traite de fou si vous dites que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Vous êtes fou et on est prêt à vous mettre en prison, plus ou moins, aujourd'hui. Si vous voulez affirmer cela dans la société, on vous met dans un asile ou dans une prison, l'un ou l'autre. C'est vrai. Et vous voyez la réaction. Dites à un de vos amis, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Oh, vous allez voir, il faut mettre votre casque parce que, comme j'ai dit à l'université, ça, j'ai presque été assailli. Donc, ce que c'est, bon, il faut bien parler de la différence des sexes. Qu'est-ce qui fonde la différence des sexes? Donc, ce que c'est d'un homme et d'une femme est la nature humaine. Donc, tout le monde a la même nature ici. La nature féminine et la nature masculine, ce ne sont pas des choses différentes. C'est les modalités de la même chose. On a tous la nature humaine. On est d'accord là-dessus. C'est bien. Donc, il y a une certaine égalité de nature. Mais il y a une différence quand même. Donc, comment expliquer cette différence et quelle est la nature de cette différence? Donc, il faut bien établir d'abord la charte des inégalités, donc, comme je viens de le dire. C'est saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, qui l'a dit. Donc, vous n'avez qu'à ouvrir la somme théologique. Et puis, quand il parle des hommes et des femmes, les inégalités, vous allez voir ce que je vais vous dire maintenant. Il dit qu'il y a l'inégalité du sexe, il y a l'inégalité de l'âge, l'inégalité du part de libre arbitre. Par exemple, il y a des hommes qui agissent plus ou moins, progressent plus ou moins en science et justice. Par exemple, vous êtes supérieur à tous les paroissiens qui sont restés chez eux ce soir parce que vous allez progresser en connaissance et eux, ils ne vont pas avoir la même connaissance. Donc, il y a une inégalité. Vous pouvez dire, ah, je sais ce que l'abbé Roscoe dit, mais vous ne savez pas. Voilà, donc du libre arbitre. On agit plus ou moins. Celui qui travaille plus fort ils gagnent plus d'argent, voilà. Donc il y a des inégalités. Aussi en science, en justice, il y en a qui sont plus instruits en science, en justice, des avocats qui sont mieux l'un que l'autre. On ne va pas demander à n'importe quel avocat pour faire des cas importants, mais c'est lui qui est très bon. On le sait tout de suite, il a toute la clientèle, puis ceux qui sont moins bons, bon, ils ont moins d'argent, ils ont moins de célébrité aussi. Inégalité du corps, par exemple, une femme ne peut pas, aux Olympiques, faire le même, il ne peut pas pousser 400 kilos au-dessus de sa tête, ben, c'est impossible. Il n'y a aucune femme qui peut faire ça, sauf si elle a pris des stéroïdes ou quelque chose comme ça, ça se peut, mais autrement, des femmes... Il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Il n'y aurait jamais une femme qui va gagner les 100 mètres en 8,5 secondes, jamais. Parce que les femmes sont moins fortes que les hommes, c'est comme ça, c'est dans la nature. Et c'est une inégalité qui est naturelle, d'ordre naturel. Donc l'égalité sans distinction, parce que j'ai dit qu'il y a une égalité. Je n'ai pas nié, j'ai dit une certaine égalité, une véritable égalité. Mais dire que tout est égal... C'est fausser les choses. Étendre l'égalité à tout, c'est ridicule. Il faut faire des distinctions. Donc il y a une égalité, mais il y a aussi des inégalités. Donc les hommes naissent inégaux, par exemple. Et dire autrement, c'est un idéalisme. Donc vouloir que tous les hommes soient égaux, c'est pas réaliste, c'est pas la nature. Donc saint Thomas dit qu'on ne peut pas expliquer la différence entre les êtres corporels par la simple différence de matière. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas parce qu'on est homme et femme qu'on n'est pas égal. Bon, par exemple, j'ai parlé de moins de force, plus de science et tout ça. Mais ça, c'est... on peut trouver des hommes qui sont plus forts que les femmes et des femmes qui sont plus forts que certains hommes. On peut trouver des hommes qui sont plus intelligents que certaines femmes et certaines femmes qui sont plus intelligents que certains hommes. Donc, ce sont des... si on dit, par exemple, l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est seulement une question de corps. Donc, c'est ce qui fait la différence. Non. Ça ne joue pas, parce qu'il y a des femmes qui ont des corps qui sont plus portées à la science, par exemple. Ce n'est pas une question simplement du corps. Il y a des formes différentes dans des matières diversifiées. Donc, un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Ils ont des matières différentes. Et qu'est-ce qui fait que l'âme est différente? C'est la matière. Donc, l'âme n'est pas pareille chez un homme que chez une femme. Ça veut dire, donc, une âme, c'est cet esprit. Vous avez appris ça dans le catéchisme. Donc, ce n'est pas une question de quantité ou de qualité ou d'accident. C'est-à-dire, ce n'est pas couleur rouge ou bleu ou plus fort ou moins fort. Parce que esprit, on ne peut pas le peser. On ne peut pas mettre ça dans un balance et dire l'âme des hommes pèse plus que l'âme des femmes. Donc, on est supérieur. Non, ça ne va pas. Mais c'est la différence de la matière, donc du corps, qui fait que l'âme est différente. Donc l'âme est différente selon le corps. Tout comme, par exemple, un chien n'a pas une âme intellectuelle. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas une âme intellectuelle? C'est qu'il a le corps d'un chien. Un chien ne va pas faire la métaphysique, il ne va pas prier son chapelet avec vous après le dîner. Pourquoi? Parce qu'il a quatre pattes et puis il aboie, il a des instincts, il n'a pas la raison. Donc son âme est seulement un principe de vie, mais il n'est pas une âme immortelle, rationnelle. Il ne peut pas rire, par exemple. L'homme peut rire, un chien ne peut pas rire, parce que c'est un acte intellectuel. La surprise intellectuelle fait que l'homme rit. N'importe, une baleine, un singe, ils ne peuvent pas rire. Ce sont ceux des hommes rationnels qui peuvent le faire. Donc les corps font que l'âme est diversifiée et différente. On a la même âme immortelle, mais il y a quand même une différence entre les âmes, qui est de nature, je vais parler de ça. Donc il ne répugne pas à la raison d'admettre des êtres corporels d'une même espèce qui auraient des formes intrinsèquement et substantiellement différentes. C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes qui sont de nature humaine, donc on a la même nature. Les hommes, ils vont à la confesse comme les hommes, ils font les péchés comme les hommes, on a la même nature. Mais, de façon inhérente et puis de façon substantielle, on a des formes différentes. L'âme est intrinsèquement différente à cause des différences du corps. Mais il y a une égalité d'essence, c'est-à-dire chacun a une âme, il doit sauver son âme. Mais il y a des différences intrinsèques et puis substantielle dans l'âme. Et on va parler de ça. Les âmes humaines ne paraissent pas avoir la même perfection intrinsèque et substantielle. Donc, c'est une question de perfection. Par exemple, les saints, ils parlent, par exemple, dans la vie mystique. Ils disent que certaines âmes, ce sont des chopes de bière, donc ils peuvent recevoir beaucoup de grâce. D'autres sont des petits verres de whisky, et puis ils reçoivent moins. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu qui fait qu'il y en a qui peuvent recevoir beaucoup, les saints Ignace, les saintes Thérèse d'Avila, il y en a d'autres qui peuvent recevoir moins. Pourquoi? On est fait comme ça. Donc, c'est une question de plus ou moins perfection spirituelle. Il y en a certains qui sont plus portés à la méditation, à la mortification, à la sanctification que d'autres, ça se voit. Sinon, il n'y aurait jamais eu de saints. Ce sont des chopes de bière du bon Dieu. Et puis les autres, nous sommes des petits verres de whisky. Donc il y a des différences dans l'âme, parce que la prière, la méditation, ce sont des actes spirituels qui présupposent une âme rationnelle. Un chien ne peut pas prier, ne peut pas faire la méditation, ne peut pas se sanctifier, ne peut pas sauver son âme. Pourquoi? Parce que son âme est issue à la mort. Quand il cesse de respirer, c'est fini pour le chien. Bien, donc, c'est une question de perfection. Donc, la substance des hommes, donc la substance qui est l'âme, substance de l'âme, est inégalement parfaite chez les hommes et chez les femmes. C'est une question de perfection. Je ne parle pas d'intelligence, parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Une femme peut être beaucoup plus intelligente qu'un homme, mais il y a une perfection, tout comme physiquement. Physiquement, votre mari, il peut courir plus vite que vous, en principe, ou il peut, quand vous avez quelque chose que vous devez bouger, par exemple la sécheuse laveuse, vous n'allez pas demander à vos petites filles de faire ça, vous allez demander à vos garçons. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts. Et ça, c'est physiquement. Tout ce que je dis, et ce n'est pas de foi, ce sont des raisonnements philosophiques qui vaut ce que vaut l'argument, mais c'est en conformité avec la révélation. Donc ce que je dis, c'est que dans les âmes, il y a plus ou moins de perfection. Tout comme dans le corps, il y a plus ou moins de perfection. Et entre les hommes et les femmes, il y a des différences physiques de nature. Par exemple, les noirs, ils ont un muscle de plus dans leurs jambes. Je ne sais pas si vous saviez ça. Qui fait qu'ils peuvent courir plus vite parce qu'ils vont plus vite. C'est comme un élastique. C'est-à-dire qu'ils bondissent comme ça plus vite. Et c'est naturel. Donc, c'est pourquoi les noirs gagnent toujours les Olympiques dans le sprint. À 100 mètres, parce qu'ils ont un autre muscle que nous n'avons pas. C'est une supériorité. Ils sont supérieurs à nous physiquement, en ce rapport-là. Donc, qu'est-ce qui empêche que dans l'âme, entre les hommes et les femmes, qu'il y ait des plus ou moins de perfection? Tout comme le noir qui a le muscle de plus, il est plus parfait que vous, il est plus fait pour courir plus vite que vous, de nature. Est-ce que c'est votre faute? Non. Est-ce que vous avez demandé ça du bon Dieu? Non. Pourquoi c'est comme ça? C'est la volonté de Dieu, j'en sais rien. Bon, il y a des choses comme ça. Donc tout ce que je dis, c'est que dans l'âme, il n'y a rien qui empêche que de la même façon que dans la nature physique, il y a des différences marquantes, frappantes, il faut être sourd et aveugle pour ne pas le voir. Dans l'âme, il y a des différences aussi entre les hommes et les femmes. Mais pas des différences qui font que la femme est peut. Par exemple, la Sainte Vierge est la créature la plus haute au ciel. Ça, il faut toujours garder en tête. Ça n'a rien à voir avec la sainteté objective. C'est ça. Donc, on va continuer un peu dans notre propos. Maintenant, je voudrais parler un peu plus théologiquement. Donc, on a parlé de la philosophie. Ce n'est pas l'argument le plus fort. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est pas quelque chose de dogme ou de foi. Mais c'est quelque chose que saint Thomas d'Aquin, par exemple, a avancé, et il dit cela. Il dit que entre les hommes et les femmes, il y a des différences d'ordre de perfection entre les âmes. Il y a des inégalités. Donc, c'est pas moi qui avance ça tout seul, mais c'est saint Thomas d'Aquin qui est le docteur angélique de l'Église et qui a raisonné au XIIIe siècle sur ce fait de façon sur les principes. Pas parce qu'il était conditionné par son époque, mais parce qu'il cogitait, il raisonnait sur les principes métaphysiques de philosophie qui s'emparaient
dans toutes les époques. Comme a dit Chesterton, il a dit, dans toutes les époques, les hommes ont marché à droite, à gauche, et puis il y en a qui sont tombés sur leur nez parce qu'ils ont trop bu. Dans toutes les époques, depuis le début de la création jusqu'à la fin. La nature humaine ne change pas. On n'est pas en évolution. On est pareil dans toutes les époques. Donc, si on a cogité au XIIIe siècle sur la nature de l'homme de façon philosophique, ça vaut également aujourd'hui, si c'est vrai. Si c'est vrai. Donc, maintenant, je vais vous parler de la théologie. C'est plus facile à aborder, à mon sens, parce qu'il faut accepter ça, parce que ça vient de Dieu. Donc, c'est plus moi qui parle, c'est plus moi qui raisonne et qui fait des petites nuances intellectuelles qui sont peut-être bons, peut-être mauvais. Mais ici, c'est Dieu qui parle. Maintenant, on sort du spéculatif, on rentre dans la soumission due à la révélation de Dieu, donc à l'autorité de Dieu. C'est ça l'argument le plus fort. Donc, sur le plan religieux, l'égalité des sexes est élevée à l'ordre surnaturel. Donc, il y a une égalité des sexes surnaturelle. C'est-à-dire, la Sainte Vierge Marie a eu la plus de perfection. Elle a pu se sanctifier plus que Saint Joseph. Parce qu'il y avait une égalité de chance, si on veut dire, surnaturelle. Chacun a la grâce qui ne dépend pas du sexe, mais qui dépend de la volonté de Dieu pour cette personne humaine. Il y a aussi la subordination. Donc il dit qu'il y a l'égalité surnaturelle, mais il y a aussi la subordination naturelle et, c'est ça, naturelle. Donc il donne Genèse 2, 21-22 et 1 Corinthiens 11, 8. Je vais juste tourner la cassette. Donc, comment faire sortir ça? Bonne question. Il y en a qui sont supérieurs à moi pour une femme, par exemple, qui sait marcher. Hein? Ah, Mademoiselle Plouffe, voilà. Ça appartient à Mademoiselle Plouffe.
Oui, je pensais que tu n'as pas l'eau au début.
C'est beau. Et on pousse comme ça. C'est bien. Donc, l'homme est créé d'abord directement par Dieu, sans intermédiaire. Donc, l'homme, donc le sexe masculin, est créé directement par Dieu. Il lui donne autorité. Par la suite, la femme fut créée à travers l'intermédiaire d'Adam. Ça, j'ai réfléchi là-dessus l'autre jour, et je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est que l'homme était créé sans intermédiaire, directement par Dieu, de la boue. Donc, rassurez-vous les femmes, ce n'est pas pour la gloire. Mais les femmes étaient créées par l'intermédiaire de l'homme. Pas de la boue, mais d'Adam. J'ai jamais pensé à ça, c'est intéressant. C'est vrai. L'homme était créé directement, la femme était créée indirectement avec l'aide de l'homme. C'est intéressant. Parce que c'est ça, bon. Indirectement de l'homme, et non directement sans l'homme. Mais Dieu aurait pu créer la femme directement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu a créé l'homme sans intermédiaire et la femme avec un intermédiaire? Il y a des raisons. La femme vient de l'homme, donc c'est son origine. Elle vient de l'homme. L'origine de l'homme, par exemple, le sexe masculin, c'est la boue, c'est la terre, créée par Dieu directement. Voilà l'origine de l'homme. Mais l'origine de la femme, c'est l'homme. C'est pourquoi j'aime beaucoup en anglais, c'est pas pour dénigrer les femmes, mais ça aide à comprendre. Homme, man, woman. Man, woman. Wo, dans l'ancien anglais ancien, c'est of, de. Il y a homme et de l'homme. C'est très beau. Ça montre exactement le propos de la Bible. Et il faut bien savoir qu'en sachant des choses, ce n'est pas pour amoindrir la femme. Ces choses sont, c'est la libération de la femme. La libération de la femme, c'est de connaître ces choses-là. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les femmes. Et c'est comme ça qu'ils vont se sanctifier. Donc, c'est comme ça qu'ils vont être heureux sur la terre. Et c'est dans la mesure où ils se révoltent contre ces idées qui viennent de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, ça vient de Dieu. Donc, c'est l'autorité de Dieu. Si on se marre, c'est parce qu'on se moque de Dieu. Donc, c'est sérieux. Donc, si on accepte ces choses-là, c'est notre bonheur. C'est Dieu ne veut pas nous donner la révélation pour nous casser les pieds. Mais c'est pour faciliter quoi? La raison pour laquelle l'homme et la femme ont été créés, pour se sauver. Donc c'est quelque chose d'essentiel, même, de très important. Et c'est pourquoi le diable a mis à côté aujourd'hui. Donc la femme vient de l'homme, son origine, mais la cause est plus parfaite que le fait. Donc l'homme est dans un certain sens la cause de la femme. Donc, par exemple, quand je me mets au tableau, disant je suis le bon Dieu, je mets un crayon en main et j'écris sur le tableau, disant c'est l'homme, j'écris quoi? J'écris la femme. Donc la craie, c'est dans un certain sens une cause subordonnée ou intermédiaire, mais c'est une cause quand même. Donc la cause est toujours supérieure à l'effet. La craie qui écrit sur le tableau est supérieure à l'écriture qui est sur le tableau. Le craie sur les traces de craie sur le tableau est l'effet de la craie qui est la cause. Et donc la craie est supérieure à l'effet. Donc de la même façon, la femme est de l'homme. Et donc elle est l'effet, elle vient de l'homme qui est cause intermédiaire, donc il y a Dieu qui est cause supérieure. C'est comme par exemple quand on joue au billard, il y a quelqu'un qui tape le petit boule là, et puis avec c'est quoi le machin là qui, ce qu'on appelle ça, le bâton là. Le bâton, c'est une intermédiaire entre mon bras et la puissance de mon corps, et puis la boule. Si je tape le boule comme ça, c'est pas la même chose. J'utilise une cause intermédiaire pour concentrer l'énergie pour que ça part plus efficacement. Donc le bâton est supérieur à l'effet, l'énergie qui part. Donc de la même façon, comme la cause est plus parfaite que l'effet, posséder la perfection de l'effet. Donc l'homme possède en lui les perfections de la femme parce qu'il est supérieur comme cause, parce que la femme était tirée entièrement de l'homme. Elle vient de l'homme. Donc, tout ce qu'a la femme, l'homme doit l'avoir, au moins surnaturellement, sinon naturellement. Donc, elle est comme l'effet de l'homme, comme bien sûr cause intermédiaire, parce que ce n'est pas l'homme qui a créé la femme. C'est le bon Dieu qui a créé la femme par la cause intermédiaire, la médiation, si vous voulez, de l'homme. C'est ça. Donc, et le fait doit posséder la perfection de la cause doit posséder la perfection de le fait à un degré éminent, car rien ne peut donner ce qu'il ne possède lui-même. Donc, comment l'homme aurait pu être par exemple, si vous utilisez une pierre et vous allez écrire au tableau, vous n'aurez pas d'écriture. Pourquoi? Parce que ça possède pas les perfections de l'écriture. Donc, l'homme devait avoir les perfections de la femme afin d'être, parce qu'il est cause intermédiaire. Donc, homme, femme, peintre, tableau. Par exemple, l'homme est à la femme comme le peintre est au tableau. Tout ce que possède un tableau, par exemple, si on dit un Van Gogh ou un Rembrandt ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'a le tableau est possédé par le peintre. On sait tout de suite quand c'est un Rembrandt. Pourquoi? Parce qu'on voit la façon il peint de gauche à droite, où il utilise certaines couleurs ou certains styles. Donc on sait tout de suite, un expert, en voyant le tableau, il dit c'est Rembrandt. Et de la même façon, quand le théologien voit la femme, disons, il dit elle est de l'homme. Elle a tout ce qu'a l'homme. Voilà. Et l'homme est comme le peintre au tableau, l'homme à la femme. Et c'est dans la révélation. Donc la femme vient donc après l'homme par ordre de création. Elle est assujettie à l'homme, mais sans que l'homme soit la fin dernière de la femme. Donc, c'est quoi la fin dernière de la femme? C'est le même que pour l'homme, c'est le salut éternel. Donc, c'est pas parce qu'elle est tirée de l'homme qu'elle a comme fin l'homme, non. Mais elle doit se soumettre à l'homme, qui est comme la cause intermédiaire de son propre existence, afin d'atteindre sa propre fin, qui est le salut éternel. Donc voilà, vous voyez, Dieu, homme, femme, pour aller à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter par la même chose. Il faut être soumis à l'homme afin de sauver votre âme. Et vous voyez la révolte satanique aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, il a tiré la femme de l'homme, et puis afin de sauver nos âmes, il faut que les femmes soient soumises, pas servilité, mais subordination à l'homme. C'est ça. Et ça d'ordre naturel et d'ordre surnaturel. Donc la fin dernière de l'un et celle de l'autre sont absolument égales. Et c'est ça, donc c'est le salut éternel, comme on vient de voir. Tous les baptisés sont revêtus du même Christ en tant que tel. Toute différence de dignité leur est enlevée. Donc la Sainte Vierge a eu une plus grande dignité de Saint Joseph. Mais Saint Joseph sur la terre était son chef. L'ange est venu à Saint Joseph quand on a dit, prends ta femme et l'enfant et allez en Égypte. Qui était plein de grâce? Est-ce que c'était Saint Joseph? Non. Il n'était pas l'Immaculée Conception, Saint Joseph. Mais il avait une supériorité hiérarchique sur la Sainte Vierge, et ça de nature. Et donc l'ange a parlé à Saint Joseph. Et puis, il n'était pas mère de Dieu, il n'était pas l'Immaculée Conception, il n'était pas plein de grâce. Donc pourquoi l'ange a dit à Saint Joseph, réveille-toi, et puis allez en Égypte avec Marie? C'est parce qu'il était le chef, la tête de la famille, de la sainte famille. Et donc, il a dit à la femme, levez-vous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi dans l'esprit surnaturel. Elle n'a pas dit, non, donnez-moi 10 minutes pour faire mes cheveux et puis on partira en 4 heures. S'ils étaient partis en 4 heures, les soldats auraient été arrivés et puis Jésus... Donc, vous voyez comment l'importance, par exemple, de l'obéissance. Donc, il y avait une raison. Donc, c'est intéressant de voir cela. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc, soyez soumises, pas comme des musulmans ou des païens, mais comme il convient dans le Seigneur. Donc, c'est la dignité de la grâce qui fait que cet assujettissement est pour le bonheur de la femme, c'est pour l'épanouissement de la femme. Assujettissez-vous vous-même, c'est Saint Paul qui le dit. La modalité est la limite de la soumission qui doit être in domino. Donc on voit que cette soumission n'est pas illimitée. Par exemple, j'ai entendu l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait qu'il parlait avec une Québécoise qui a marié un musulman au Québec. Et puis il portait le tchador. Et puis cette fille avec qui je parlais, elle disait que j'avais parlé avec cette Québécoise en tchador. Je disais, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes OK comme ça? Pourquoi vous vous promenez comme ça? Il disait, je me suis marié à un musulman au Québec et puis il m'a demandé de me convertir et puis porter le tchador. Et donc, elle avait l'air un peu malheureuse. Donc, elle disait, mais qu'est-ce que vous avez, vous? Et puis, ce matin, mon mari m'a battu. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai versé du café à côté de son verre. Donc, vous voyez, assujettissez-vous vous-même. Ce n'est pas de la façon musulmane, mais c'est in domino. Donc, c'est dans le Seigneur. Et les maris auront des comptes à rendre pour la façon qu'ils gèrent le foyer et le genre de soumission qu'ils exigent de leur femme, qui peut, bien sûr, avoir des modalités différentes selon les tempéraments et les caractères des peuples différents ou des personnes différentes. Mais il doit toujours avoir cet respect et cette soumission. Mais dans le Seigneur. Donc, cette suggestion de la femme à son mari est suggestion au Seigneur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme, l'homme, le Dieu. Donc, quand vous êtes assujetti à votre mari, comme toute autorité vient de Dieu, vous êtes assujetti à Dieu. Mais quand vous révoltez contre votre mari, vous vous révoltez contre Dieu. Et vous n'avez qu'à penser à votre travail. Si, par exemple, vous dites... dans une grande entreprise, je ne vais pas obéir à mon superviseur, mais je vais tout de suite voir le directeur de l'entreprise où vous ne durerez pas la semaine. Parce que dans la mesure où vous respectez, vous êtes soumis à l'autorité du superviseur, vous aurez le respect du directeur et pas le contraire. Donc c'est naturel, mais la difficulté bien sûr, c'est que c'est bien de le dire pour les hommes et les femmes de façon égale, mais c'est difficile de le dire à l'intérieur des sexes, qu'un sexe est soumis à l'autre. C'est ça ce qui est difficile. Mais autrement, on le fait tout le temps. Hein. Il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est pas soumise à une autorité. Donc en effet, non seulement cette soumission tire son origine de la législation divine, on a vu ça, donc c'est bon. Donc il faut maintenant une petite apologie de la doctrine et de la pratique de l'Église sur la femme. Donc, on a dit qu'il y a une soumission. Et comme on a parlé de perfection, donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important, parce que on va parler d'infériorité, mais pas dans le sens moderne C'est une question de moins de perfection. Donc, celui qui a moins de perfection est inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'aveugle est l'inférieur de celui qui voit. Celui qui est bébête est l'inférieur de celui qui est intelligent, qui est professeur de l'université. Il est l'inférieur. Mais on a attaché au mot inférieur aujourd'hui un sens péjoratif. Donc, quand on parle d'infériorité de la femme, tout de suite, on se met en... on dit c'est... Non, elle n'est pas inférieure. Mais ce n'est pas une infériorité, parce qu'on dit infériorité, esclavage. C'est faux, c'est une fausse association. C'est infériorité, rôle différent. Voilà. Donc, quand je dis infériorité, il faut bien mettre en tête, ce n'est pas le sens moderne péjoratif. Donc, cette infériorité présumée de la femme dans l'Église, il y a deux considérations à rappeler quant à cette infériorité de la femme dans l'Église. La première considération est que la différence naturelle entre l'homme et la femme peut justifier un égard différencié aux droits revenant aux deux sexes, sans léser en aucune façon leur égalité sur un plan plus élevé. Donc, dans la famille, l'homme a les droits, par exemple, de gérer la famille, l'autorité de gouvernance, c'est un droit qui revient à l'homme, et la femme a des droits différents. Elle n'a pas ce droit-là, mais elle a le droit, par exemple, de la maternité. Donc, c'est quelque chose de juste et bon de mettre au monde un enfant. C'est le droit de la femme dans le saint mariage. C'est un droit différent, mais c'est un droit supérieur. Le droit de gouvernance est un droit supérieur au droit de la femme. Donc, ça ne lèse pas l'égalité entre les sexes, c'est-à-dire l'égalité de nature et de salut de fin dernière. Ce n'est pas la foi seulement qui est unique et identique pour l'homme et la femme. Il y a pour l'un et l'autre une seule Église, une seule tempérance, une seule pudeur, égale la nourriture, égale l'union conjugale, la respiration, la vue, lui, la connaissance, l'espérance, l'obéissance, l'amour, la grâce, le salut, la vertu. Donc c'est qui dit ça? C'est un des pères de l'Église. Donc c'est Clément d'Alexandrie. Donc il fait la charte un peu des égalités. Qu'est-ce qui est égal entre l'homme et la femme? Par exemple, l'union conjugale. La femme a droit sur le corps de son mari et le mari a droit sur la femme, le corps de la femme. C'est à l'égalité. C'est pas plus pour l'homme et moins pour la femme. Non, c'est à l'égalité. Donc il y a bien des choses qui sont égales, mais il y a bien des choses qui sont, bien sûr, subordonnées. Donc l'Église catholique a toujours, dans toute son histoire, observé le principe de l'égalité de destin, donc de salut, de jugement, de paradis, et de mérite. Donc une femme peut mériter aussi bien qu'un homme, qu'avoir la Sainte Vierge, par exemple. Donc le destin, le mérite. Regardez la Sainte Vierge, vous avez compris tout de suite. Elle qui était la plus basse sur la terre, donc elle s'est humiliée sur la terre, dans la subjection à son mari. À cause de cela, elle est la plus haute au ciel. Mais imaginez si elle aurait révolté contre Saint-Joseph, qui n'est pas possible, mais dans l'ordre du possible, disons. Elle aurait été le moindre au ciel, s'il aurait abouti au ciel. Donc c'est pour le bonheur des femmes qu'on parle de ces choses. Donc grâce à laquelle leur diversité naturelle... Donc l'Église catholique a toujours observé le principe de l'égalité de destin, de mérite et de sexe, grâce à laquelle leur diversité naturelle et la subordination correspondante se résolvent en une égalité. C'est ça. Donc il y a une égalité que la diversité naturelle n'amoindrit pas. Il y a une certaine égalité et qui fait l'unité entre l'homme et la femme. Donc il y a des choses communes. L'opinion de l'état d'abjection et d'avilissement où la femme aurait été tenue par la religion est à cause des publications novatrices. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des modernistes et aussi des athées, des francs-maçons qui propagent partout. Vous n'avez qu'à lire leurs documents. Par exemple, en 1962, il y a un document publié à Québec des francs-maçons qui a été publié après. Et ils parlent de ça, qu'il faut dénigrer les prêtres, il faut dénigrer l'état, le rôle de la femme d'autrefois. Il faut reléguer comme ça le prêtre à la sacristie et il faut émanciper la femme afin que le foyer soit détruit. C'est ça leur but. C'est pas que les femmes soient libres qui courent partout et puis gagnent de l'argent. Ça, c'est pas leur intérêt. L'intérêt, c'est de détruire la famille. Donc l'émancipation de la femme, c'est une fausse émancipation, parce qu'elle est émancipée de quoi? De la loi de Dieu. Est-ce qu'on a le droit d'être émancipé de la loi de Dieu, les lois qui régissent le foyer? Non, parce que c'est la damnation. Donc, ce qui est vrai, c'est que qu'ici, comme en beaucoup d'autres parties de la pensée contemporaine, on a eu record à une synecdoque, bon, qu'est-ce que ça veut dire, moi, je ne sais pas, historiographique, donc on a fait une espèce de caricature, on a caricaturisé en isolant une partie des faits et en les traitant comme s'il s'agissait du tout. Vous avez vu ce que je disais tout à l'heure. Donc on a pris quelques exemples des messieurs qui ont battu leurs femmes ou des femmes qui avaient tout plein d'enfants, ils étaient malheureuses, mais ils n'allaient pas à l'église ni à la confesse, on ne dit pas ça. Mais on donne ces petits exemples et puis on défigure la beauté de la famille chrétienne. Si par exemple, tous les fins de semaine, on mettait un article à propos de la Sainte Famille, pensez-vous que les gens vont rejeter les lois de l'Église et puis les femmes vont quitter leur foyer pour travailler? Bien sûr que non. Mais on ne donne jamais ces exemples-là parce que ça va faire revenir les gens au bon sens. Mais on donne des exemples révolutionnaires qui sont toujours croustillants, bien sûr, qui fait que les hommes et les femmes songent qu'à révolter. Que l'homme songe à être adultère et la femme songe à être ailleurs. Et puis avec un prince charmant quelque part. Voilà. Des rêveries qui pullulent dans nos journaux et dans les livres. Par exemple, les Arlequins romances et tout ça qu'on voit sur les côtés de la bus, du bus en ville comme ça, c'est affreux. Et c'est ce qu'on fait, on fait éclater la famille. C'est le but. Bien, maintenant, on va passer directement au... avant ça, je vais distribuer cette photocopie à ceux qui s'intéressent. On va passer directement à la théologie et puis au nouveau catéchisme. Donc l'homme est le chef de la femme de par la nature. Donc Adam fut la tête ou le chef d'Ève, sa femme. Adam fut tête de l'humanité car en lui était toute la descendance humaine en puissance. Donc on dit que par exemple c'est le péché d'Adam qui a fait que les hommes sont tombés dans le péché originel. Même dans les catéchismes de l'Église catholique, on dit c'est le péché d'Adam. On ne dit pas c'est le péché d'Ève, ni c'est le péché d'Adam d'Ève. On dit que le péché originel, c'est le péché d'Adam. Ce qui présuppose que c'est lui la tête, c'est lui le responsable. Si c'est une contagion qui était contractée par tous les hommes, ça présuppose que Adam était responsable, qu'il avait autorité. Mais dans le catéchisme, malheureusement, on n'en parle pas du fait que Adam est tête. Mais on dit que c'est le péché d'Adam et d'Ève. Ici, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est affreux, parce qu'on dit, d'un côté, c'est le péché d'Adam, mais de l'autre côté, on nie que Adam était le responsable, la tête, qui avait toute sa descendance en lui, de par son autorité patriarcale. Un homme déchu ne peut pas, par sa propre force naturelle, relever la race humaine de cet état. Donc Adam tomba, il y avait le péché originel, et toute la race humaine tomba de grâce avec lui. C'est à cause d'Adam que toute la race humaine est tombée. Par exemple, saint Thomas dit que, disons, c'est possible que la femme aurait péché tout seul. Imaginez qu'Ève aurait péché, puis elle aurait été voir Adam. Adam aurait dit, pas maintenant parce que j'ai pris mon chapelet, et puis allez-vous-en. Puis il n'aurait pas tombé. Est-ce que toute la race humaine aurait tombé dans le péché originel? Non, et c'est un dogme de foi catholique. C'est la doctrine de l'Église, excusez-moi. C'est la doctrine de l'Église sur que si Ève aurait péché seule, que la race humaine n'aurait pas tombé dans le péché. Pourquoi? Parce que Ève n'avait pas d'autorité de représenter toute la race humaine depuis le commencement à la fin. Parce que Adam était la tête, pas la femme. Elle était soumise à l'homme. Donc ça aurait été un péché personnel pour elle, un péché mortel, personnel pour elle, mais pas un péché originel qui aurait été transmis comme une contagion à toute la race humaine. Donc Adam est tombé. Et donc toute la race humaine est tombée dans le péché. Et les hommes ne peuvent pas se relever de cet état de déchu par leur propre force. Donc un homme créé juste non plus peut pas... Bon, un homme, Dieu seulement, pouvait relever la race humaine car il est homme, donc il peut représenter l'humanité. Donc le Christ était le nouvel Adam. Il est la nouvelle tête de l'humanité. C'est important. Adam était la première tête, Jésus-Christ est la deuxième tête de l'humanité. Il est comme le nouvel Adam. Et il peut représenter, parce qu'il a une autorité d'homme, toute l'humanité. Une femme ne pouvait pas représenter l'humanité parce qu'elle n'a pas d'autorité, c'est-à-dire de nature. Accidentellement, oui, une société peut donner un pouvoir légal ou juridique à une femme. Il y a bien des femmes qui, par exemple, Madame Thatcher, elle avait une autorité, mais c'est une autorité humaine, pas naturelle, donc ni surnaturelle. Mais cette autorité était donnée de Dieu, Dieu a toute autorité vient de Dieu. C'était donné à Adam et pas aux femmes. Les femmes sont soumises à l'homme. Donc Jésus-Christ est homme, donc il peut représenter l'humanité. Il est Dieu, Dieu, donc il peut par une infinité de grâces réparer une faute infinie. Donc il est Dieu, donc il peut réparer le péché mortel par la grâce. Donc il fallait qu'il soit homme de sexe masculin, car c'était la tête de l'humanité qui a fait tomber l'humanité. C'est la tête de l'humanité qui a fait tomber l'humanité. Et donc il fallait une nouvelle tête, un homme qui a autorité pour relever l'humanité. Parce que, vous savez, par exemple, la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père génère, il a une autorité, il est le principe actif, un principe génératif de vie. On ne dit jamais mère. Il y en a des hérétiques qui disaient que Dieu était mère. Mais c'est une hérésie, parce que les femmes reçoivent, ils ont une autorité passive, ils ont un principe passif. Et l'homme donne. C'est dans la nature de l'homme de donner. Donc Père a engendré le Fils. Vous ne parlez jamais d'une femme qui a engendré le Fils dans le même sens, de pouvoir pouvoir génératif. Donc, l'autorité générative repose en Dieu. C'était donné à Adam, cette autorité paternelle que possède Dieu, était donnée à Adam. Donc, si Ève aurait péché, ça aurait été une faute personnelle et non collective. Donc, Jésus-Christ a pris la place d'Adam. Il est le nouvel Adam et non une nouvelle Ève. Donc, on dit que la Sainte Vierge est une nouvelle Ève. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est co-rédemptrice. Est-ce qu'on a dit qu'elle est rédempteur ou rédemptrice? Non, elle est co-rédemptrice. Donc elle s'est unie. Voilà le pouvoir des femmes. De s'unir à leur mari, de s'unir à la croix, de s'unir au Saint-Sacrifice de la Messe. C'est ça le rôle de la femme. Elle est créée comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le bon Dieu qui l'a fait ainsi. Et tous les faits, physiques, psychologiques, théologiques et autres, font le preuve. Donc à ce titre, donc par le titre de caput de l'humanité, tête de l'humanité, il nous rachète du péché d'Adam. Et Ève n'aurait pas pu faire cela, parce qu'elle n'avait pas d'autorité. Donc le Christ tient la place de la personne d'Adam. Donc Adam était un mâle, il avait l'autorité. Est-ce qu'une femme peut prendre la place d'un homme? Pas pour ce genre de choses, parce que c'est une question d'autorité inhérente à la nature. Ce n'est pas une question de couleur ou de poids ou de force ou d'intelligence, ça n'a rien à voir. C'est une question d'autorité inhérente dans la nature qui est donnée à l'homme. Donc, Adam était un homme, il avait l'autorité. Dieu a donné l'autorité aux hommes. Il aurait pu donner l'autorité aux hommes et aux femmes, mais ce n'est pas l'univers dans lequel nous vivons. Il a fait autrement. Pourquoi? C'est sa sagesse. On voit la sagesse de Dieu sur la croix, de Jésus sur la croix. L'hostie victime. Donc, l'hostie victime dans l'Ancien Testament est toujours un mâle d'un an sans tache. Donc, on n'offrait jamais des victimes femelles, par exemple. Jamais, jamais, jamais. Par exemple, on chargeait la victime mâle des péchés, comme Jésus est chargé des péchés. Le prêtre tient la place du Christ dans la continuation du sacerdoce du Christ. Donc, le prêtre est un autre Christ. Le Christ est un autre Adam. Adam a eu l'autorité inhérente à sa nature. Donc c'est impossible pour une femme de tenir la place du Christ parce qu'elle n'est pas masculine. Et elle est impossible pour Ève de prendre la place d'Adam, par exemple. C'est impensable que ce soit le péché d'Ève. De la même façon, c'est impensable que ce soit qu'il y a une sacerdoce féminine. Ça se découle. Jésus-Christ a pris la place d'Adam, il est le nouvel Adam. L'homme ayant la puissance et l'autorité active, il retourne à l'homme donc d'offrir et de distribuer le sacré. Donc Jésus seul
éveille les puissances comme homme, de faire retourner l'homme dans l'état surnaturel. Parce que seuls les hommes peuvent offrir le sacré et réparer et distribuer le sacré, donc donner les grâces. Ce n'est pas aux femmes de donner des grâces, ce n'est pas aux femmes de réparer pour le péché, c'est-à-dire le péché collectif, je ne parle pas des péchés personnels. Donc le Christ tient la place de la personne d'Adam. Adam est un mâle, et le prêtre tient la place du Christ, donc le prêtre doit être de sexe masculin. Voilà l'argument théologique. Aussi, le Christ est à l'Église comme Adam est à Ève, la tête aux membres. Donc, le Christ est la tête de l'Église, nous sommes les membres du Christ. Adam était la tête d'Ève, et Ève est le membre d'Adam. Elle est unie à Adam, elle est tirée d'un côté d'Adam. Elle est comme un membre. Quand on dit le bras, c'est d'un membre. Ève était un membre d'Adam. Elle est unie de son corps. Époux, épouse. Époux, épouse. Donc Adam, Ève, Christ, Église. Prêtre, fidèle. Supérieur, inférieur. Donc le prêtre est comme le Christ. L'Église, c'est composé de fidèles. Le prêtre est supérieur aux fidèles qui sont inférieurs. C'est une question de perfection, pas de sainteté. Vous pouvez être plus saint que moi, c'est pas difficile. Mais moi, je suis votre supérieur en grâce, en autorité, en rôle, en dignité même, dignité objective, pas nécessairement subjective, parce qu'il faut une sainteté intérieure qui coïncide avec la dignité de la sainteté objective donnée par Dieu. Mais de la même façon que le prêtre régit les fidèles comme le Christ régit son Église, Adam est le supérieur d'Ève, il est le supérieur. Et donc, qui dit supérieur dit inférieur. Et ce n'est pas péjoratif, c'est tout simplement un fait. S'il y a un supérieur, il y a un inférieur. Donc, Léon XIII dit dans son encyclique, je vais vous lire ça maintenant, donc c'est encore une encyclique, donc c'est la doctrine de l'Église, ça pèse plus fortement l'argumentation que les arguments philosophiques que j'ai donnés tout à l'heure. Le mari est le régent de la famille et la tête de la femme. Donc vous voyez le même langage. Adam est la tête de l'humanité. L'homme est la tête de la femme à cause de cela. La femme, comme chair de son chair, os de son os, c'est vrai. C'est un fait. La femme est tirée d'un côte d'Adam. Elle est donc, elle doit être. Il dit doit être. Il ne dit pas en 1942. Il dit, c'est un enseignement. Doit être subordonnée et obéissante à son mari, non pas comme une servante, donc comme une esclave ou servilement, mais comme un compagnon de telle manière que l'obéissance qui lui est rendue est aussi honorable qu'il est dignifié. C'est ça qui fait la différence avec les païens. C'est pourquoi ça peut devenir un esclavage par défiguration chez les hérétiques, chez les musulmans et autres. D'un extrême ou dans l'autre, dans l'esclavage ou dans la libération outrée. Donc certains hérétiques, bon, avant de dire ça, je vais juste lire un peu de Pie XI, l'ordre de l'amour. Donc il parle de l'ordre de l'amour. En la société domestique ayant été bien affermie par le lien de cette charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelait l'ordre de l'amour. L'amour est donné de façon ordonnée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont des chopes de bière surnaturelles, il y en a d'autres qui sont des petits verres de whisky. Il y a un ordre dans l'amour. Il y a des grandes mystiques, et puis il y en a qui prient leur chapelet, qui sont à peine en état de grâce, mais voilà, il y a un ordre de l'amour. L'amour n'est pas donné à tous de la même façon. Il y a plus ou moins supériorité, infériorité, plus de perfection, moins de perfection. Cet ordre implique et la primauté du mari sur sa femme et ses enfants, et la soumission empressée de la femme, ainsi que son obéissance spontanée, ce que l'apôtre recommande en ces termes, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, donc il le qualifie, parce que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Et c'est très beau, et c'est pour toutes les époques. Et on n'entend ça nulle part aujourd'hui, sauf dans la tradition, les quelques prêtres réfractaires chez les modernistes. Cette soumission, d'ailleurs, ne nie pas et n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, c'est noble d'être une épouse, de mère et de compagne, regarde la Sainte Vierge, c'était noble. Elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils soient, même à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à la dignité de l'épouse en toutes choses sauf le péché. Elle n'enseigne pas que la femme doive être assimilée aux personnes que, dans le langage du droit, on appelle des mineurs et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé ou de leur impéritie dans les choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits. Donc, les femmes ne doivent pas obéir aux enfants, par exemple, masculins ou autres. Mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille. Et voilà le clé de la révolte aujourd'hui. On néglige le bien de la famille. En attaquant la famille d'autrefois, en libérant la femme du foyer, on attaque le bien de la famille. Et personne n'y pense, sauf nous. Elle ne veut pas que dans le corps moral, que la famille, le cœur soit séparé de la tête. Donc la femme, c'est le cœur, l'homme, c'est la tête. Au très grand détriment du corps entier et au péril. Par exemple, si un corps n'a pas de tête, c'est pas un homme. Si un corps n'a pas de cœur, c'est pas un homme. Mais le composé qui est la personne humaine doit avoir et une tête et un cœur. Mais le cœur est soumise à la tête. Vous ne pouvez pas imaginer une cœur sans tête. Ça bat, mais ça ne fait rien. Ni un tête sans cœur. Il faut les deux. Mais le cœur est moins digne, moins noble, caput. Qui dit caput, tête, dit nobilité, chef, le chef. Donc c'est plus noble que le cœur. Mais c'est beau d'être un cœur. Tout comme c'est beau d'être une tête. C'est différent, c'est tout. C'est pas une question d'un moindre. On a la dignité qu'on a, c'est tout. Puis on est content d'être qu'on est. Et on se sanctifie dans la mesure où on s'accepte. On accepte ces choses-là. C'est parce que les femmes ne veulent pas une tête qui les régit. Ils ne veulent pas battre au même rythme. Au rythme de la tête, par exemple. La tête donne des impulsions. Bon, si en effet le mari est la tête et la femme est le cœur, et comme le premier possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté d'amour. Si l'homme a la primauté de gouvernance, d'autorité, la femme a la primauté d'amour. Donc regardez sur vos feuilles, vous voyez, l'homme est le principe actif, donc il a cette. Il est comme un cercle plus grand. Supérieur, disons, principe actif, il est la tête, et à l'intérieur, principe passif, primauté d'amour, primauté de gouvernance, tête, primauté d'amour, cœur. Et au surplus de la soumission de la femme à son mari, ses modalités suivant les conditions diverses des personnes, des lieux et des temps, bien plus si le mari manque à son devoir. Par exemple, il revient à la femme d'être chef de la famille, mais pas par nature, mais par défaut. Et elle a toutes les grâces du mariage pour la famille. Mais pour ce qui regarde la structure même de la famille, donc il parle de la nature des choses, et sa loi fondamentale, donc il parle de la loi dans toutes les époques, la loi philosophique, naturelle, établie et fixée par Dieu, bouleversée ou d'y porter atteinte. C'est ce qu'on fait partout. Vous allez le voir dans le nouveau catéchisme. Il n'est nulle part permis de les bouleverser ou d'y porter atteinte. Donc on va voir là-dedans, il bouleverse tout, il ne reste plus rien. Bien, l'homme, Léon XIII, l'homme est le prince de la famille et le chef de la femme. Celle-ci toutefois, parce qu'elle est, par rapport à lui, la chair de sa chair, l'os de ses os, sera soumise. Elle obéira à son mari, non point à la façon d'une servante, mais comme une associée. Et ainsi, son obéissance ne manquera ni de beauté ni de dignité dans celui qui commande et dans celle qui obéit. Parce que le premier reproduit, c'est très beau ça, parce que le premier reproduit l'image du Christ et la seconde l'image de l'Église. Donc, tous les deux sont beaux ou belles, mais dans leur ordre respectif. La charité divine ne devra jamais cesser d'être régulatrice de leurs devoirs respectifs. C'est parce qu'on a vidé le foyer de l'amour de la charité divine, donc de la grâce, que ça ne marche plus. Bien sûr qu'on ne veut pas être soumis à son mari si on vit dans le péché. Tiens donc, les femmes, ils veulent le plaisir, ils veulent la libération, ils veulent que leur mari les serve et puis fait son affaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être indépendantes. C'est sûr que si on vit dans le péché contre les lois de Dieu, on ne veut plus parler de soumission. Mais si on parle de la charité divine, il n'y a que ça, il n'y a que la soumission. Regardez dans tous les saints, qu'est-ce qu'ils ont fait?
leur volonté ci-dessus dans la volonté de Dieu? N'y a-t-il pas une soumission dans la sainteté? Bien sûr, tous les jours, il faut soumettre ses passions à sa raison à Dieu. Il faut soumettre ses idées propres aux idées de Dieu. Et on se soumet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on lâche, on peut en faire autre chose. Mais c'est la même chose dans la famille. La même chose, pareil. Bien, donc on a regardé la doctrine de l'Église. Juste un petit mot sur ceux qui ont parlé des femmes prêtres et de l'égalité de la femme sur l'homme ou de la supériorité de la femme sur l'homme. Donc, des hérétiques de toute époque ont admis des femmes au ministère sacré. Des cataphrygiens, des pépusiens, des gnostiques, les pères de l'Église, les ont combattus en disant que cela est entièrement contraire à la doctrine apostolique, parce que Jésus a ordonné à des hommes de recevoir le ministère sacerdotal, et pas les femmes. Il y avait des femmes de grande dignité, la Sainte Vierge Marie, qui avait une sainteté éminente, mais elle n'était pas appelée au sacerdoce. C'était que des hommes. Et c'est la volonté de Dieu. Donc, plus tard, les Lollards et beaucoup de dénominations protestantes, donc des sectes de nos jours, ont constitué des femmes dans le ministère, Wycliffe et Luther, qui ont enseigné que tout chrétien est prêtre. Donc, comme tout chrétien est prêtre, comme tout chrétien est baptisé, parce que c'est un sacerdoce de baptême ou un sacerdoce lié au baptême, tout le monde est prêtre, donc tout le monde peut exercer le ministère. C'est la même argumentation qu'on voit dans l'Église aujourd'hui. Donc, ils ont nié le ministère sacré, que le ministère sacré doit être limité au sexe masculin. Donc, Luther disait quoi? Il disait que tout baptisé a le pouvoir sacerdotal actif. Donc, tous sont prêtres. Tous peuvent offrir des sacrifices de louange. Donc, c'est le sacerdoce royal dont saint Paul parle dans les Épîtres. Mais ce sacerdoce-là, c'est un sacerdoce passif. Donc, c'est un sacerdoce qui reçoit, qui s'unit au prêtre ministériel, le ministre, le prêtre, qui, lui, a un principe actif, parce qu'il est homme d'abord, mais aussi parce qu'il est prêtre. Donc, il a un principe actif d'offrir des sacrifices et de distribuer les grâces qui appartiennent au prêtre seulement. Donc, l'Église catholique dit, tout baptisé a un pouvoir sacerdotal passif de par le baptême. Donc, de s'unir au sacrifice, mais quelques baptisés, et des baptisés masculins seulement, ont un pouvoir sacerdotal actif, donc le pouvoir d'ordre. On a parlé tout à l'heure de l'ordre de l'amour. Donc qui dit ordre dit supérieur, inférieur, hiérarchie, plus de perfection, moins de perfection, ordre. Donc l'ordre, le sacrement d'ordre, est donné aux hommes, parce que c'est eux qui sont à la tête de l'hiérarchie. Et vous n'avez que à regarder tout autour de vous pour voir l'hiérarchie. Si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie de loi. Si vous... C'est ça, bon. Hiérarchie, charge d'autorité surnaturelle qui appartient aux hommes. Donc, on va parler maintenant du... On a exposé un peu la doctrine. On va exposer les erreurs. Ce serait bête, bien sûr, d'exposer les erreurs ensuite de la doctrine parce que ça mêle tout le monde. Mais maintenant qu'on a un peu, en gros, la doctrine, on va voir les erreurs. Donc, il faut bien ouvrir vos yeux et vos oreilles, plutôt, afin de bien catcher les petites choses, les nuances. Égalité et différence voulue par Dieu, à la page 84 du Nouveau Catéchisme. Égalité et différence voulue par Dieu. Ça pourrait être dans le Catéchisme du Concile de Trente, parce que c'est vrai. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes, une certaine égalité, mais il y a des différences. C'est très juste. Et ils sont voulus par Dieu. Voilà. Mais malheureusement, dans le paragraphe, il ne parle pas des différences. C'est comme si on disait, on mettait un article, les pommes et les oranges. Les pommes, ils poussent partout dans des pommiers, on recueille des pommes partout, on fait du cidre, ainsi soit-il, ou fin. Puis on dit, les pommes et les oranges. Tiens, on n'a pas parlé d'oranges, c'est un peu drôle. C'est exactement ça ici. Égalité et différence voulue par Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Une parfaite égalité en tant que personne humaine, d'une part et d'autre, part dans leur être respectif d'homme et de femme. C'est voulu par Dieu. Très juste. C'est bon. C'est ce qu'on a dit. L'homme et la femme ont une dignité inadmissible qui leur vient immédiatement de leur créature, de leur créateur. Donc, c'est la justice originelle perdue par Adam et Ève. Donc, plus de dignité. Ils ont perdu leur dignité.
Adam et Ève avaient le don de la grâce et donc la dignité, mais pas nous qui naissons dans le péché originel. Donc c'est un peu faux. Donc il dit que c'est une dignité inadmissible. Cette dignité est surnaturelle, ce n'est pas naturel. Ils ont perdu la dignité. Et après la chute, ils n'avaient plus de dignité, donc c'est faux. C'est tout à fait faux ça. Parce qu'ils disent que les hommes et les femmes aujourd'hui ont la même dignité. Inadmissible, c'est faux, c'est pas juste. Et puis on parle de l'homme et la femme ont la même dignité à l'image de Dieu. C'est ça, mais on ne parle pas des différences. Il n'y a ni homme ni femme, etc., etc., perfection. Bon, on ne parle pas des différences. C'est drôle, hein, donner un titre puis pas parler des différences. Les différences, on en a parlé. Donc là, l'homme est tiré du liman, ensuite la femme est tirée de son côté. Créés ensemble, voilà le. Donc c'est l'un pour l'autre, une unité à deux. Donc voilà le sous-titre d'un autre paragraphe. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Créés ensemble, c'est faux. Il y avait d'abord l'homme tiré du liman de la terre, ensuite la femme est tirée de son côté. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont faussé les Écritures? Ils n'ont pas cité les Écritures, heureusement. Parce que, égalité. Si on dit créer ensemble, on dit égalité en tout, en tout. C'est faux. Chacun peut être aide pour l'autre parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personne et complémentaires en tant que masculin et féminin. Ça, c'est vraiment insipide. Parce que dans la doctrine catholique, on a dit toujours que la femme est l'aide de l'homme et qu'elle est le complément de l'homme. On n'a jamais parlé de l'homme comme étant l'aide de l'homme et le complément de l'homme. Pas dans ce sens spécifique de os, parce qu'ici, os de mes os, eau de mes os, etc., etc. Donc ils disent que c'est comme si la femme était tirée de l'eau, des os de l'homme, et ensuite l'homme était tiré des os de la femme. C'est pas vrai. Ça va pas dans les deux sens, c'est sens unique. C'est-à-dire, la femme est tirée du côté de l'homme, elle est l'aide, elle est donc le complément. Donc dire que il y a une parfaite égalité en tant que personne, et puis tous les deux sont aides l'un pour l'autre, c'est faux. C'est faussé la Bible. Contredit Genèse 2, 20 et 23, c'est la femme qui est l'aide, subordonnée à l'homme, elle est de l'homme. Donc c'est faux. On va voir plus loin encore. Le sacrement de mariage, parce que ça revient. Pourquoi je parle du mariage et du sacerdoce? C'est parce qu'il y a l'hiérarchie dans les deux. Donc l'homme-femme, le prêtre régit des femmes comme des hommes dans ses congrégations, et puis l'homme régit la femme dans la famille. Donc ça revient à peu près à la même chose. Bien sûr, il y a des modalités différentes. Que l'homme et la femme, donc, excusez-moi, le sacrement du mariage à la page 340-341, citation, le mariage dans l'ordre de la création. Donc il parle de loi de nature. Ordre. Qui dit ordre dit loi. Qui dit que l'homme et la femme soient créés l'un pour l'autre, l'Écriture sainte l'affirme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. La femme chair de sa chair, c'est-à-dire son vis-à-vis, son égal, toute proche de lui, lui est donnée par Dieu comme un secours, représentant ainsi le Dieu en qui est notre secours. C'est faux, c'est contre la foi révélée. C'est plus une opinion, ou c'est contre la foi révélée de Dieu. Donc c'est faux que la femme est l'égale de l'homme. Non, que la femme soit soumise à l'homme. Ça va contre toute la tradition de l'Église. Là, ils en vendent. Il y a un petit oiseau, un colombe qui est tombé du ciel pour donner les nouveaux dons du Saint-Esprit, là. Parce que ça ne vient pas du dépôt révélé de la foi. Ça vient de leur imagination et du progrès des temps. Parce qu'il faut que l'Église soit mise à la page des erreurs contemporaines. Oui. Donc, ensuite, il y a leur mariage dans le Seigneur, in domino encore, page 644. C'est ce que l'apôtre Saint Paul fait saisir en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Point. C'est tout ce qu'il dit à propos de Saint Paul. Donc, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Erreur par omission. C'est-à-dire, on vient de voir en Saint-Paul, on va voir tout à l'heure que Saint-Paul, il y va. Hein. Il dit plus que ça. Il dit, on donne qu'une face de la médaille. Et cela, délibérément. Saint-Paul a été conditionné par son temps. Donc, il faut faire le tri.
faut faire le tri dans Saint Paul, parce que il y a du Saint Paul qui est bon, il y a du Saint Paul qui est mauvais. Du Saint Paul qui est mauvais parce que il reflétait les opinions dans la société de son époque. Et aujourd'hui, c'est différent. Donc, c'est pas une question de vérité, bien sûr, c'est une question de purement sociale qui change avec le temps. Que la femme soit, vous savez, autrefois, la femme était comme une esclave et tout ça. Et puis Saint Paul, il avait un peu l'esprit juif de l'époque, ou romain même. C'est faux. C'est la doctrine révélée de Dieu. Et on fait une erreur par omission. On ne part pas de la soumission de la femme. Que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise au Christ. On ne dit pas. C'est une faute grave d'omission. Ensuite, dans les effets du sacrement de mariage, quatrième partie à la page 348 et 49, les biens et les exigences de l'amour conjugal. Donc, il exige indissolubilité, donc le mariage, et la fidélité. Il s'ouvre sur la fécondité. Donc, il dit qu'il y a trois parties essentielles du mariage, trois choses qui font l'unité du mariage, c'est ça. Il dit l'indissolubilité, que ça ne soit pas cassé, jamais, la fidélité, donc pas d'adultère, fécondité, donc les enfants. Mais dans la tradition de l'Église, il y en avait toujours quatre. Et on n'en parle pas. On ne parle pas du quatrième. Quel est le quatrième? Hiérarchie. On ne part pas. On saute. C'était mise à la page. La doctrine catholique était mise à la page. Donc, si vous ne me croyez pas, vous savez que regardez dans le catéchisme du catholique du mariage, qui a l'approbation du pape Jean XXIII et puis tout plein de cardinaux et tout, en disant que c'est la doctrine de l'Église. Quels sont les principes caractéristiques de l'union du Christ avec son Église que le mariage chrétien est appelé à signifier? L'union, l'indissolubilité, on parle de ça, on parle de l'offre. La fidélité, un seul Christ, le Seigneur, mon Église, unique et ma colombe, unique et ma parfaite, donc fidélité dans le mariage. Fécondité, c'est pareil, donc la mission d'enfanter les élus pour le ciel et former le Christ en eux, très bien. Fini, point. Puis dans mon catéchisme, ça continue. C'est écrit la hiérarchie. De même que la gloire de l'Église est de se soumettre en tout à son divin époux, car il est son chef, sa tête, l'épouse chrétienne est fière de reconnaître en son mari celui que Dieu lui a donné pour chef. C'est Dieu qui a donné le mari à l'épouse. Et c'est encore un nouvel aspect de l'union du Christ avec l'Église que le mariage chrétien met en lumière. Donc c'est beau, comme l'union entre le Christ et l'Église et la subordination est beau, le mariage est beau. Mais c'est un crime, ça. Laisser des notes du mariage à côté, c'est comme si on dit « Ah, saint catholique », puis on continuait le credo. Ça ne va pas, ça. C'est en fausse. Et puis tout le monde dit « Ah, c'est catholique, c'est très bien ». C'est très bien, mais c'est incomplet. Parce que, pourquoi il ne veut pas parler de hiérarchie? Parce que ça amène beaucoup de difficultés. Beaucoup, beaucoup de difficultés. Pourquoi on parle des femmes prêtres aujourd'hui? Parce qu'on n'en parle plus de l'hiérarchie. Pourquoi on n'a pas parlé de l'hiérarchie? Parce qu'on veut des femmes prêtres. Parce qu'on veut faire qu'il y ait une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, qui est contredit par toute la tradition de l'Église et par l'Écriture sainte. Et c'est une crime, c'est un péché grave. Donc quand le pape fait la préface du catéchisme en disant le concile ne devait pas d'abord condamner les erreurs de l'époque, mais il devait avant tout s'attacher à montrer sereinement la force et la beauté de la doctrine de la foi. Pour moi, Vatican II a toujours été, etc., etc. Après le renouvellement de la liturgie et de la nouvelle codification du droit canonique de l'Église latine et des canons des Églises orientales catholiques, ce catéchisme apportera une contribution très importante à l'œuvre du renouveau dans toutes les vies ecclésiales voulue et mise en application par le deuxième concile du Vatican. C'est ça. L'Église, le catéchisme de l'Église catholique que j'ai approuvé le 25 juin dernier, et dont aujourd'hui j'ordonne la publication en vertu de l'autorité apostolique, est un exposé de la foi de l'Église et de la doctrine catholique, attestée ou éclairée par l'Écriture sainte, la tradition apostolique et le magistère ecclésiastique. Je le reconnais comme un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale et comme une norme sûre pour l'enseignement de la foi. Donc quand j'omets ce quatrième élément, c'est une norme sûre de l'enseignement de la foi. Donc c'est un crime. C'est un drôle de tradition apostolique que lui est là. C'est un drôle de l'Écriture sainte que lui est là. Donc c'est grave, c'est très très grave. Bien, on continue. Donc, regardez le petit feuille, là, l'hierarchie des sexes. Donc, je vais traduire de l'anglais un livre par le père Krah qui s'appelle La théologie de Saint Paul, volume 1, page 120. Et quelque chose d'intéressant. Donc, dans les villes grecques, en général, les femmes ont joui d'une très grande liberté. Et à Corinthe, ce n'était pas une bonne école pour enseigner les réserves à la modestie. C'est-à-dire, les femmes, elles étaient plutôt libérées dans la société athénienne. Ils avaient le même droit de vote, de circulation, de droit en famille, tout. Il n'y avait pas un esclavage, au contraire. Donc, il semble qu'ils pouvaient aller aux rencontres religieuses ou à des assemblées religieuses, donc païennes, sans voile, et qu'ils pouvaient même parler là. Donc, Paul condamne cette pratique comme étant pas correcte, contraire à la coutume des autres églises et opposée à son enseignement. Donc, Corinthiens 11, 3, 16. En ces jours-là, c'était la coutume d'aller la tête découverte, c'est-à-dire la femme, parce que c'était un signe d'autorité et d'autonomie. Donc, sans voile, les femmes sans voile, c'était un signe d'autorité et d'autonomie. Parce que la voile symbolise la peur, donc le deuil, la subjection. Saint Paul dit que les femmes portent la voile pour montrer qu'ils sont soumis, on va voir ça, à l'homme, et en crainte des anges. Par crainte des anges, qu'est-ce que ça veut dire, par crainte des anges? C'est par crainte des prêtres. Un ange dans l'Écriture sainte, dans ce contexte, c'est un prêtre. Donc les femmes portent la voile par crainte d'être immodestes pendant la messe, par exemple. Que le prêtre, par exemple, le serment, il ne se distrait pas à regarder les jeunes filles qui sont tout maquillées et tout ça, mais qu'il donne son serment, qu'il donne la vérité de Dieu. Et donc, c'est par crainte des anges, des saints anges. Et c'est l'interprétation traditionnelle. Donc, c'est par modestie, par subjection et par respect du prêtre. Par respect du prêtre aussi. Voilà. Donc, la chrétienté est venue pour émanciper la femme. C'est drôle, ça. Parce que les modernes disent que l'Église a soumis la femme à l'esclavage. Mais ici, Krah dit que le christianisme est venu émanciper la femme, d'élever sa condition sociale et restaurer sa position d'honneur dans la famille. Parce qu'on a relégué les femmes à cette époque-là à des espèces de courtisanes qui servaient les plaisirs des hommes. Mais ils n'étaient pas, par exemple, ils n'avaient pas d'honneur dans la maison. Et ils n'ont pas assigné aux femmes une place quelconque dans les fonctions sacrées de l'hiérarchie ecclésiastique à l'époque. Par la loi de Dieu et dans l'ordre de la nature, l'homme est fait le sujet et sujet à son mari. Donc, par la loi de Dieu et par l'ordre de la nature. Donc, il y a les deux. Ce n'est pas seulement parce que Dieu l'a dit, mais c'est parce que c'est dans la nature des choses. Dieu ne demande rien qui va contraire à la nature. Il ne va pas commencer à demander des grenouilles de prier le chapelet. Pourquoi? Parce que ça va contre la nature. La foi est toujours en fonction, en harmonie avec la raison. Donc, par la loi de Dieu et la norme de la nature, la femme est sujette au mari, et par son comportement extérieur, elle doit exprimer cette dépendance. Donc, dans l'Église, l'homme ne porte pas une voile. Pourquoi? Parce que ce serait un signe de dépendance et de subjection. Mais parce qu'il est la tête, il est caput, il est le chef, il ne porte pas de voile, il n'a jamais, dans toute la tradition de l'Église catholique, est-ce que les hommes ont porté quelque chose sur la tête dans l'Église. Mais toujours, depuis le début, la Sainte Vierge, on ne voit jamais des statues sans une voile. Ce serait un scandale de voir un statue de la Sainte Vierge Marie sans voile. On ne le mettra pas dans notre maison ni dans nos églises, malgré le fait qu'on le fait aujourd'hui. Dans toute l'histoire de l'Église, les femmes portaient la voile pour montrer la dépendance et la soumission et le respect. Et ça fait l'honneur de la femme. C'est l'honneur de la femme. L'apôtre nous fait rappel que la tête de la femme, c'est l'homme. La tête de l'homme, c'est le Christ. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Donc, c'est l'hiérarchie correcte, établie par Dieu. Christ, la tête suprême de l'Église, sous la suzeraineté de Dieu, a réservé pour l'homme seul le pouvoir de gouvernance. Et c'est par l'homme qu'il exerce sa juridiction. La femme est comme dans le dernier rang, sans autorité propre.
Donc l'homme et la femme est vu ici comme prise dans un sens collectif. Et façon conséquent, il n'y a rien pour empêcher que leur inégalité individuelle ni leur relation mutuelle soit nuée, c'est-à-dire du supérieur et inférieur. C'est ça. Donc il y a une certaine égalité, Saint Paul dit. Saint Paul désire qu'il y ait cette hiérarchie des sexes, qu'il soit exprimé perceptiblement ou visiblement dans les fonctions liturgiques de l'Église. Donc un homme priant ou prophétisant dans l'Église avec sa tête couverte déshonore sa tête parce qu'il abdique volontairement la dignité hiérarchique avec laquelle le Christ l'a honoré. C'est un point assez important parce que je vois beaucoup de jeunes et puis il y a un jeune en particulier qui est marié et puis dans l'Église moderne et puis il dit qu'il ne doit pas être à la tête de la maison mais qu'il doit avoir égalité parfaite dans la famille. Donc c'est toujours, ils font tout ensemble, toucher les patates, vaisselle, tout, c'est égal, parfait dans tout. C'est un peu ridicule parce que même si c'est gênant, ils font tout ensemble. Tout, absolument tout, font tout ensemble. Et puis pour lui, c'est une vraie déshonneur, parce qu'il abdique son autorité. Et c'est une humiliation. C'est, quand vous voyez ça, vous dites, mais bon, c'est pas mauvais que l'homme aide avec la vaisselle, c'est même bien. Il y a des moments où c'est bien, si la femme est fatiguée, allez-y les hommes, vous ne vous gênez pas. Hein. Mais c'est pas son honneur de faire ce que fait la femme, ni que la femme fait ce que fait l'homme. Et ce que, par exemple, les hommes qui abdiquent leur rôle en disant qu'il y a une égalité parfaite dans le mariage, c'est un esclavage mutuel. Ce n'est pas une libération et c'est humiliant. Je rappelle ça parce que ça m'a frappé comme étant vraiment malsain presque. On abdique volontairement la dignité et en révolte contre Dieu, en révolte contre le bon Dieu. C'est-à-dire la dignité que la hiérarchie que le bon Dieu, c'est le Christ qui a honoré l'homme avec cette dignité. Et en le refusant, en le rejetant, on rejette dans un certain sens l'autorité du Christ. Parce que ce n'est pas au choix, ce n'est pas au pif. C'est quelque chose qui est dans l'ordre établi. Donc un homme qui abdique à cette dignité volontairement, en sachant que l'Église enseigne le contraire, c'est une vraie déshonneur. Donc un homme priant ou prophétisant, une femme priant ou prophétisant avec la tête découverte serait... Faire y tomber, en anglais, c'est serait une déshonneur pour sa tête parce qu'elle montrait par cet acte une arrogance, une effronterie qui n'est pas convenable à son sexe et qui baisera, c'est ça. Donc, ce serait l'équivalent, dit l'apôtre, de raser sa tête. Par exemple, si vous avez une femme dans l'église qui rase sa tête, bon, ça complètement, ça va de bon sens. Mais on voit ça, par exemple, récemment, il y a un modèle en France qui fait la rage maintenant en France, et puis elle a rasé sa tête, elle a une espèce de tatouage sur sa tête, comme ça, et puis elle fait la rage partout. Elle n'a pas de cheveux du tout. Et tout le monde veut qu'elle vienne modeler les vêtements et tout ça. C'est affreux. Et voilà ce renversement de l'ordre complet. C'est diabolique. Puis les femmes qui n'ont plus de cheveux, ils sont mis en honneur, et les femmes qui ont des cheveux, qui veulent élever des enfants, sont comme des folles. C'est complètement diabolique. Ça, bon. Donc l'histoire de la création donne la femme la même leçon de la modestie. L'homme, en quelque sorte, est une réflexion directe de la majesté divine. Pourtant que la femme est comme l'image d'une image. L'image d'une image, c'est beau ça. L'image d'une image. Dieu a dit, quand il a fait la femme, faisons-nous l'homme, faisons à l'homme un aide comme à lui-même. Faisons à l'homme un aide comme à lui-même. L'homme est pris pour modèle et la femme est pris de façon corporelle de lui. Quand j'ai pensé par exemple à cette le fait que la femme venait de l'homme par l'intermédiaire de l'homme, c'était avant que j'avais lu ça et ensuite je l'ai relu et ça a dit exactement ce que j'avais pensé avant. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a concordance, que je dis la même chose. Donc la femme était faite vis-à-vis de l'homme parce qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. voici les trois raisons pour la subordination que le Saint-Esprit donne à la femme pour sa méditation. En plus, la nature est en accord avec la révélation pour enseigner la femme la modestie et la décence. Il a donné à la femme ses cheveux comme une voile, une honneur et un ornement. Ce serait une insulte d'enlever ces ornements de la femme. Donc une femme chaude, c'est une insulte. Même quelqu'un qui n'a pas de bon... Je ne sais pas, il vit dans le péché, c'est affreux ça. Tout de suite, c'est la réaction, sauf si vous êtes corrompu et perverti. Ça fait l'affaire des corrompus et des libertins, bien sûr. Au contraire, ce serait une honte pour l'homme de laisser pousser ses cheveux comme comment dire en français, comme des types efféminés un peu qui envoient ça partout à l'université, des jeunes hommes qui se promènent comme des jeunes filles avec des cheveux tout longs, c'est fou. On a perdu tout sens de décence et qui ne pense pas aux impulsions de la nature. Parce qu'on fait susciter dans les hommes des mauvais désirs. Par exemple, des hommes qui désirent des hommes, des femmes qui désirent des femmes. C'est ça, c'est la révolte totale de la nature. Voilà. Donc c'est l'apôtre qui dit, la femme doit avoir sur sa tête la voile comme signe de l'autorité de l'homme et à cause des anges. Donc les anges, ce sont les prêtres. Et nous sommes témoins de la subordination originelle des sexes au jour de la création. Et les anges sont aussi les invisibles et sévères gardiens du chrétien dans les lieux consacrés et les prières et les rites solennels, c'est-à-dire le prêtre. Donc les prêtres, ce sont les gardiens des lieux saints et les rites de l'Église. Donc pour finir, il y a tellement de choses. Voilà. On va finir avec la théologie. Donc, de nature, la femme a moins de perfection individuelle que l'homme. Elle n'est donc pas capable d'assumer une charge d'autorité de nature. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir une certaine autorité. Un exemple classique, les abbesses des monastères ou des couvents. Mais c'est toujours un homme qui régit ces couvents. Donc, c'est comme une autorité humaine. Parce qu'un homme ne peut pas régir un couvent de femmes, ça ne va pas. C'est normal que les femmes se régissent entre eux. C'est normal. Mais ce n'est pas la même autorité qu'a un prêtre ou un évêque sur les fidèles. C'est par délégation, disons. C'est une permission. Mais c'est toujours l'abbesse qui se rencontre au père général des bénédictins ou autre. Elle est soumise à un homme quelque part. Donc, elle n'est pas capable d'assumer une charge d'autorité par nature. Je ne parle pas d'autorité humaine, je ne parle pas d'une autorité de suppléance, mais je parle d'une autorité naturelle. Car l'autorité revient au supérieur de l'espèce pour le bien commun. La grâce perfectionne la nature. Donc, comme le sacerdoce est une charge d'autorité et que la nature féminine est incompatible avec une charge d'autorité, je parle d'une charge d'autorité de nature. Il faut bien s'entendre sur les mots. La nature féminine est nécessairement incompatible avec le sacerdoce parce qu'une femme ne peut pas assumer une charge active sur les fidèles. Parce qu'elle est soumise à l'homme, de nature et surnaturellement. Donc, voyons de plus près. Le sacerdoce n'est pas seulement un pouvoir de conférer la grâce, mais une fonction hiérarchique comprenant de soi, même si tous les prêtres ne l'exercent pas, le pouvoir de gouvernement, le pouvoir d'enseignement, d'autorité et le pouvoir liturgique. Donc, l'exercice de ces trois pouvoirs actifs est divers. Mais de soi, le caractère sacerdotal du prêtre y est ordonné. Donc, c'est le fait, le prêtre peut exercer ces autorités-là, mais il n'est pas forcément, il ne doit pas forcément le faire. Rappelons que le sacerdoce n'est pas une fonction transitoire, mais un caractère sacré permanent dans l'âme. Et seulement l'âme d'un homme peut recevoir le caractère du sacerdoce. Parce que l'âme d'une femme n'est pas disposée à recevoir ce caractère. C'est comme si on voulait verser de... Je ne sais pas, moi, c'est toujours dangereux, les analogies. Faire attention. Mais bon, je ne peux pas penser à un exemple pour l'instant qui donne... C'est pourquoi sa validité n'est pas liée aux qualités et aux défauts accidentels de personnes, mais à leur nature même. Ce n'est pas parce que c'est un bon prêcheur, ou parce qu'il est intelligent, ou parce qu'il a le don de gouverner les gens. Non, c'est la nature. Le prêtre, quand il prononce les paroles de consécration, il exerce un pouvoir inhérent dans son âme. Seulement le prêtre peut dire ces paroles-là. Si un fidèle dit les mêmes paroles, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Ils font une nature. On ne peut pas ordonner un grenouille, par exemple. Un grenouille ne peut pas prononcer les paroles de la consécration. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'âme. Donc il ne peut pas recevoir cette fonction inhérente. Et la nature de l'homme, seul, par volonté de Dieu, parce que seulement l'homme peut recevoir l'autorité, seulement l'homme peut validement être ordonné. Peu importe les qualités de tel ou tel. Donc, il peut avoir une femme qui est plus intelligente qu'un homme. Elle peut avoir beaucoup plus à dire que l'homme, mais ce n'est pas son rôle, tout simplement. Seuls les hommes peuvent exercer des fonctions d'autorité. Des femmes en sont incapables de nature. Mais de soi, la nature féminine n'y dispose pas. De soi, l'autorité naturelle et surnaturelle revient aux hommes. Donc l'Église peut accidentellement confier des pouvoirs à des femmes, par exemple Isabelle d'Aragon, qui était reine d'Espagne, ou Sainte-Catherine de Sienne, ou Sainte-Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église, car la nature de ces pouvoirs résulte des décisions humaines. Par exemple, Sainte-Catherine de Sienne, elle y allait contre les papes d'Avignon. C'est à cause d'une femme que les papes sont retournés à Rome après 100 ans d'absence. Et c'est une femme qui a dit, ayez un peu de courage là, c'est vous l'homme, c'est pas moi. Allez à Rome. Non, j'ai peur, je veux pas. Allez, puis je vous donne un botte sinon. Puis elle écrivait des missives à tous les fins de semaine, et puis le pape, il n'en pouvait plus, donc il partait. C'est une femme qui l'a... Mais est-ce que ça fait que Sainte-Catherine, parce qu'elle était plus braquée que le pape, qu'elle pouvait devenir pape? Non, parce que c'est une femme. Voilà. Chacun, l'humilité, c'est de connaître sa place. L'orgueil, c'est de vouloir... échanger sa place avec une place qui n'est pas la nôtre. Par contre, la nature du sacerdoce est divine et éternelle. La convenance ou non-convenance, donc, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas si vous avez compris, la convenance, c'est-à-dire la disposition ou la non-disposition du sacerdoce dans l'âme de chacun, dépend de la nature, des natures mêmes et non des décisions libres des hommes. Ce n'est pas parce qu'un homme dit, vous, Madame Entel, vous allez être prête. Non. Ça dépend de la nature, de la loi naturelle, et de la loi divine. Ça ne dépend pas des hommes. Ce n'est pas une décision d'un homme qui peut changer cela. Tout comme je ne peux pas dire, vous, demain, vous serez un homme. Ça ne fait rien. Tout comme si vous disiez, demain, vous serez plus prêt. Bon, ce n'est pas possible. De par sa nature, le sacerdoce est incompatible avec la nature féminine. Une décision des autorités n'y changera rien. Donc, si demain, Rome dit, il y aura des prêtres, il y aura des évêques qui sont des femmes, c'est impossible. Impossible, invalide. Donc, on aurait à rejeter cela, bien sûr. Ce serait un abus de pouvoir. Tout comme on a vu dans le catéchisme, c'est un abus de pouvoir d'enseigner de telles choses là-dedans. C'est un abus de pouvoir. Le prêtre agit in persona Christi. Il est un autre Christ. Une femme ne peut pas tenir place d'un homme. Son âme et son corps ne sont pas disposés à recevoir le marque indélébile d'un homme Dieu. Jésus était un homme. On ne dit pas femme Dieu. On dit, c'était un homme Dieu. Le prêtre est comme assumé dans l'union hypostatique de la divinité. Il est comme absorbé dans la divinité de Dieu, mais d'un homme Dieu. Donc voilà la grandeur du prêtre. C'est pourquoi les anges s'inclinent devant le prêtre, parce que sa nature humaine est comme assumée dans la divinité du Christ qui est Dieu. Et une femme ne peut pas prendre la place d'un homme Dieu. Ce n'est pas possible, même naturellement. Le sacerdoce est une participation dans l'union hypostatique. Cette union entre l'humanité masculine du Christ et la divinité du Verbe. Tout comme l'homme, un homme ne peut pas enfanter ou allaiter à cause d'une impossibilité physique et substantielle, une femme ne peut pas être vêtue du caractère d'un sacerdoce ministériel actif. Elle a, par contre, comme tout baptisé, un sacerdoce universel passif qui lui permet de participer à la liturgie, de s'unir à la messe, mais non pas de la diriger. Le rite d'ordination administré à une femme serait donc purement et simplement invalide et les grâces rebondiraient même. Ce que à Dieu ne plaise, il a été approuvé par les autorités de l'Église. Donc si les autorités de l'Église approuvaient une telle chose, et si un évêque ordonnait une femme, serait comme la lumière sur un miroir, ça ne pourrait pas pénétrer, ça rebondirait comme ça. Donc merci bien, on va prier.